chers audinautes, c'est vous. Votre web radio préférée, c'est nous. Vous souhaite une excellente année 2007. Puisque mes petits camarades me renouvellent leur confiance pour cet éditorial de rentrée et les vœux qui l'accompagnent, je souhaite de tout mon cœur une excellente année 2007 à toutes les femmes opprimées qui sont malheureusement nombreuses. Bonne année 2007 à toutes les femmes afghanes, en espérant qu'elles seront moins nombreuses justement cette année à se suicider par le feu pour cause de mariage forcé et mauvais traitement. Aux femmes du Darfour, aux femmes de Palestine, spécialement Roula, Mariana, Felicia, Amani et Manal, à celles en lutte contre le patriarcat sur tous les continents. La compétition des victimes entre noirs, juifs et musulmans semble s'être un peu calmée en France. C'est tant mieux, mais on pourrait mettre tout le monde d'accord en rappelant que les victimes de crimes sont en leur grande majorité des femmes. Et si tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ici, ça n'exclut tristement pas les agressions, viols et meurtres par de parfaits étrangers. Et puis, certaines femmes sont juives, musulmanes ou noires, CQFD. Hommes, femmes, enfants, ils sont victimes du capitalisme libéral ou non, du marché, de la précarité, du chômage, de la traque aux sans-papiers. À eux, à vous, on souhaite une bonne année 2007, le droit au respect et à la dignité. Dans cet esprit, je souhaite une bonne année au philosophe Michel Onfray, qui a pris l'initiative de relancer l'idée d'une candidature antilibérale unitaire pour les présidentielles en France. Suite à son appel, une pétition circule sur papier, dans le bar ici ce soir, on vous invite à la signer, à la lire d'abord, à la signer si vous voulez. Et sur Internet, pétition qui demande la mobilisation collective derrière la candidature de José Bové, personnalité hors parti, syndicaliste, emblématique des luttes internationales contre le libéralisme, pour l'écologie et le respect du vivant et des vivants. Enfin, à toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, Radio Apple Pie souhaite qu'un autre monde devienne possible, dignité, amour, plaisir et toutes les petites joies du quotidien dont on profite mieux sous un toit et devant une table ou dans un lit que sous une tente qu'est GMAP. Une excellente année 2007 évidemment à nos invités de ce soir, la nouvelle équipe du Café Musique du Havre, le cabaret électrique qui ouvre ses portes dans quelques jours pour notre plus grand plaisir. Radio Apple Pie, émis public numéro 101, ça tourne. Bonne année à vous tous dans le bar. On souhaite toutes les meilleures choses pour 2007. Et puis, donc, on renouvelle nos voeux à Paca et Philippe qui sont là, qui sont nos invités ce soir pour le cabaret électrique. On va néanmoins commencer par une petite partie magazine, comme on fait depuis septembre. On a une nouvelle formelle, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, Letty n'étant malheureusement pas là, on lui souhaite effectivement deux meilleures choses pour l'année 2007. Et puis, à vous encore bonne année, Pascal et Ludo.
Bah, bonne année à tout le monde. Hein.
Bonne année. Voilà.
Alors voilà, Ludo, je ne sais pas si tu veux commencer à présenter trucs dans cette partie magazine.
Moi, à d'entrée.
Comme tu veux, j'ai quelque chose à...
Oui, si tu veux, enfin c'est fort sinistre ma foi, mais je sais qu'après, place sera faite à la culture. Non, juste rappeler que le 25 décembre, pendant qu'on n'en finissait plus de fêter l'anniversaire de Jésus, voilà, tout ça.
De gaver des canards et d'égorger des pintades.
Joie dans les cœurs, joie dans les foyers. Quatre détenus ont trouvé la mort de la manière la plus officielle, enfin officielle, quoique les familles n'en eurent été prévenues que le lendemain, et en tous les cas de la manière la plus légale qui soit. Quatre détenus ont donc été exécutés par pendaison. Alors, serait-ce en Irak ou bien en Chine, vous savez, ces pays sur la difficile, sur la dure voie de la démocratie et qui exigent une souplesse diplomatique à la limite du tour de rein. Ben non, en fait, c'était une nation, tout ce qu'il y a de plus industrialisé et hyper consumériste, pardon, le Japon en l'occurrence, où en 2007, la peine de mort est toujours en vigueur.
Effectivement, merci pour l'information et dont on peut espérer que ça ne se reproduira plus dans les mois qui viennent. C'est mal parti, peut-être, tu vas nous dire.
J'en ai peur.
D'accord. Effectivement, pour rester, tu parles de prisonniers, écoute, on ne s'était pas concerté. Je ne voulais pas oublier de souhaiter non plus une bonne année 2007 à Bassem, hein, Bassem El-Khadadji, que vous connaissez bien ici, puisqu'on pense à lui assez souvent, et qui a été condamné injustement à 3 détentions à vie en Palestine. Et pour passer à des choses quand même plus sympathiques, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé.
Est-ce qu'il est dans les livres de record, en fait ? Non, il y a...
Pas encore, parce qu'il existe, et pas seulement sous le régime israélien, dans le monde entier, des gens qui sont condamnés à, ne serait-ce qu'aux États-Unis, à un nombre de peines de réclusion à vie. Ce serait trop long à les énumérer.
Ouais, bonjour l'absurdité. Mais...
Voilà. Donc non, allez, pour revenir à des choses un petit peu plus gaies. Donc, sous le sapin, citation de moi-même, « Le Père Noël n'existe pas, mais les cadeaux sont bien réels ». Ce qui serait le titre de mon futur livre contre la religion, si je n'étais pas aussi fainéante. En tout cas, j'ai trouvé un excellent bouquin d'Éric Azan qui s'appelle « Notes sur l'occupation, Qalkilia, Naplouse, Hébron ». Et vraiment un tout petit bouquin dans sa maison d'édition qui s'appelle « La Fabrique », autrefois « La Découverte », que je vous conseille. Un prix modique, un tout petit bouquin, mais qui raconte vraiment extrêmement bien l'occupation dans ces 3 villes qui sont symptomatiques parce que c'est vraiment extrêmement différent. Bon, je ne vais pas essayer de vous le résumer, je vous renvoie à ce livre. Vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, pas plus loin qu'en face de l'Apple Pie. Un CD de Georges Brassens dont on écoutera un morceau tout à l'heure, La Canne de Jeanne. Ce coffret de CD, de 3 CD, s'appelle La Mauvaise Réputation. Merci maman. Merci François pour le note sur l'occupation d'Éric Azan. Je vous conseille, pour vous changer les idées, parce que c'est quand même assez drôle et décalé, OSS 117, Le Caire, Nid d'espion, merci Pascal, avec l'excellent, en l'occurrence, Jean Dujardin. Le polar de Cormac McCarthy, Non, ce n'est pas un pays pour le vieil homme, encore merci Pascal. Alors j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit, très violent dès le départ, je sais pas si tu as un point de vue là-dessus. Je trouve que la morale de l'histoire était quand même un soupçon réac. Toi qui connais probablement mieux l'auteur.
C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles réac ? Enfin, qu'est-ce que t'appelles,
Disons que je ne sais pas si c'est ce personnage ou si l'auteur se projette en lui. Je crois que la morale, c'était quand même, nous les gens d'ici, on est plein de bon sens, la religion nous aide à ne pas commettre des mauvaises actions dans ce monde un peu barbare, suivre une bonne vieille logique. Bon, ça n'est que des bonnes choses au fond, mais non, je sais pas, je voulais te demander ton avis.
Ce qui m'emmerde, c'est parce qu'il mêle un peu la religion au truc.
Pas uniquement, bon, ça c'est sûr qu'après avoir dédié les vœux en frais...
Ça m'a pas vraiment gêné. Non, ça, sur le coup, ça m'a pas vraiment gêné. Ouais, je le réalise exactement. Okay.
Je trouvais que ce policier, parce que il y a plusieurs personnages intéressants, mais que le policier qui est le narrateur avait un côté comme ça... bonne vieille morale de la campagne, tout à
mais
fait juste,
que
brave
c'est,
homme,
c'est,
sympathique.
C'est pas vous, c'est, enfin, c'est voulu pour l'auteur, je pense que
c'est ce que je me demandais.
Quelque part c'est voulu par l'auteur, mais je pense pas qu'il se projette lui-même dedans. Hein.
D'accord.
Je crois que c'est le personnage qui est comme ça et qui l'a fait exprès de le faire comme ça justement en contrepoint de. Mais à mon avis, il l'a pas fait en disant c'est lui qui a raison. Ou,
voilà, c'était pas idéologique quoi.
Non, je pense pas du tout. Hein. C'est pas le style à McCarthy du tout. Hein. Donc.
Non mais. M'étonnerait. Encore merci. Bon, après, j'arrête. Mais pour ce cadeau, non, ça m'a énormément plu. Et puis, c'est un style extrêmement brillant.
Non, puis c'est un super, un super roman.
Mais je me doutais que tu en avais lu.
Qui est quand même
de
très lui, fort au niveau de.
Oui.
Dès le départ de.
Écoutez, on vous le conseille. J'ai pas noté l'éditeur, mais c'est pas grave, vous le trouverez. Hein. Donc, non, ce n'est pas un pays pour le vieil homme. Ce qui nous fait un enchaînement, finalement, avec ta première chronique de ce soir, puisqu'on attaque par le polar.
Le polar, oui. Alors, on va attaquer avec Le Roi des Fourmis. De Charles Hickson. Hickson, donc c'est dans la collection Thriller aux éditions du Rocher. Et donc c'est un écrivain, producteur et comédien anglais qui s'est fait remarquer au début des années 90 dans la série produite par la BBC, série humoristique qui s'appelait The Fast Show. À partir de 1992, il publie en fait des polars mêlant réalisme social et humour grinçant, dont paru en France Le Secret du Bonheur. Roman en fait noir, mais qui se pose vraiment la principale question que tout le monde s'est toujours posée. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux ?
Ben c'est vrai, ça. Hein, on s'est souvent posé cette question, en effet.
Après, il y a eu Tournée Générale. Donc, Tournée Générale, c'est l'histoire de Donny Spike, qui est un ancien gros bras d'une bande de Hillians du nord de Londres, Et 10 ans après un passage à tabac qui a mal tourné, deux de ses anciens complices reviennent le voir en lui proposant en fait, de blouser, de monter une combine sur un, visant un ancien camarade aussi de leur bande. Et ça a mal tourné forcément. Ensuite, il y a un roman qui s'appelle L'encombrant Mister Kitchen, qui n'est pas paru encore en France, qui va paraître dans la même collection bientôt. Mais déjà, le titre, moi j'aime bien ça, L'encombrant Mister Kitchen.
Je trouve c'est joli.
Assez joli et assez marrant. Il a aussi écrit des romans pour la jeunesse de James Bond.
Tiens.
Ouais, James Bond, déjà au lycée, faisait chier.
C'est vrai qu'on embêtait
ses petits camarades. Ou alors c'est les petits camarades qui l'embêtaient. Donc il a commencé en fait à devenir espion et, un petit peu avant.
Comment se comportait-il avec les lycéennes alors?
Bien, comme d'habitude. Toujours bien comporté avec les lycéennes. James Bond, il n'y a pas de problème. Et donc ce roi des fourmis, qui se passe donc dans la banlieue de Londres dans les années 90, où Sean Crowley, qui est un mec qui est au chômage depuis un certain temps, qui vit de petits boulots au noir, et alors qu'il refait les peintures d'une maison, il fait la connaissance d'un mec qui s'appelle Duke, qui lui refait l'électricité de la baraque. Donc il sympathise. Et Duke, à force de parler, lui propose un job, gracieusement payé en liquide, où il doit filer un comptable pour le compte de Matthews, un entrepreneur. C'est marrant, ça, un comptable qui se fait filer pour le compte.
Tu l'avais fait exprès, celle-là, ou...
Ouais.
Ah ouais, d'accord.
Enfin bon, pas grave.
Bonne année 2007,
cher Pinot.
Ça va continuer. Nous, c'est pas la rupture tranquille. Hein. C'est plutôt pas de changement et la continuité.
Donc Sean, bah, qui a toujours rêvé en fait, d'être détective privé, il a ça fait longtemps qu'il en rêve, il saute sur l'occasion et donc il commence à suivre le comptable en question. Sauf qu'il se dit, bon, au bout d'un moment, c'est bien, le détective privé, suivre les gens, c'est bien, mais c'est un peu chiant quand même, quoi. Mais avec persévérance, il va trouver des trucs. Et donc, dès le premier contact qu'il va avoir avec l'entrepreneur, il lui donne ses conclusions, les premières conclusions, il va s'apercevoir, en fait, que l'entrepreneur en question, il veut plus de lui. Il va s'apercevoir surtout que ce qu'il veut, c'est un meurtre. Et du coup, il va se retrouver plongé dans tout un micmac, où là, le pauvre gars, il a mis le doigt vraiment dans un engrenage qu'il ne fallait pas. Il va falloir vraiment qu'il refasse sortir toutes ses ressources insoupçonnées qu'il avait et effectivement révéler l'insecte qui est en lui. C'est pour ça qu'il s'appelle le roi des fourmis. Et c'est une peinture sans concession de la société britannique, un thriller vraiment amoral quand même quelque part aussi, avec un humour noir, so british comme... d'habitude de faire les Britanniques, un espèce de Hitchcock trash, assez drôle quand même. Et il y a une séquence qui est fabuleuse en fait dans le roman qui se situe un petit peu vers la fin. En fait, les gens sont embêtés parce que ce personnage de Sean, il emmerde tout le monde. Donc à un moment donné, on veut le liquider. Mais comment on veut le liquider sans vraiment le mourir à coup de balle, machin, truc mûche, on l'enferme, on le kidnappe, on l'enferme dans une grange.
Tu te ségolénises.
Voilà, on l'enferme dans une grange et en fait, on va le bourrer, lui bourre la gueule avec du whisky, régulièrement.
Belle mort.
Et on va pas arrêter de lui taper sur la tête.
Ah non.
Pour faire bouger le cerveau et se frapper de tous les côtés. Et que pauvre gars, il va devenir normalement complètement dingue. Donc il faudra vraiment qu'il sorte tout ce qu'il y a de meilleur en lui ou tout ce qu'il y a de plus insecte en lui pour pouvoir survivre. Mais c'est vraiment, vraiment génial. Ah, signaler quand même qu'il y a une adaptation cinéma du roman qui s'appelle King of Ants,
les yeux de Ludo s'allument,
qui a été réalisé, produit par Stewart Gordon, n'est-ce pas Ludo,
et qui est il me semble toujours inédite en France.
Voilà, toujours inédite,
ouais, malheureusement. Quelques passages en festival, Gérard May me semble-t-il,
ouais, Gérard May est passé, ouais, entre autres. Je crois qu'il a dû passer aussi à Deauville, il me semble qu'il était passé à Deauville une époque.
Sacré duo.
Et donc on attend, parce que si je voulais faire du mauvais esprit, je dirais pour une fois que Stuart Gordon ne fait pas du Lovecraft,
voilà.
On a particulièrement hâte de
oui,
le
parce
voir.
Que Stuart Gordon, il faut bien le dire, a fait bon,
le spécialiste officiel des adaptations
From
de
Beyond,
Lovecraft.
Ouais. Entre autres. C'est voilà, mais ce qui est marrant, c'est que c'est un film qui a un budget microscopique. Ça fait rire, ça.
Sacré toi.
Et non, ce qui était marrant, c'est que pour l'anecdote, en fait, c'est la femme du Stuart Gordon qui fait de la bouffée pour l'équipe sur le plateau. Et il paraît qu'en fait, les restes des plats servaient pour les effets spéciaux.
Oh. Alors, faisait pas manger des insectes.
Voilà, tout à fait. Donc, par contre, c'est quand même un polar qui donne matière à donner un coup de pied dans la fourmilière, faut bien le dire.
Ah, tu sais retomber sur tes pattes. Hein.
Sur ces 1000 pattes.
En tout cas, vous pouvez me couper l'antenne, je survivrai. Merci François.
Merci François, mais avant d'enchaîner avec le morceau de Brassens, extrait de ce fabuleux coffret, dont je pense, si vous êtes sage, je vous ferai écouter une chanson par émission désormais. Je voulais juste aussi terminer la partie magazine avec la sortie du monde diplomatique. Bon, évidemment... 2 janvier, magazine qui sort le premier mercredi du mois et qui est toujours excellent, et qui est apparemment en danger lui aussi, comme pas mal de presse française. Et il y a un article assez alarmant, d'autant qu'on est une web radio, qui parle d'Internet et qui explique que, bon, ça on s'en doutait déjà, que l'accès sur Internet est quand même vachement moins facile qu'on ne le dit un petit peu partout, qu'évidemment, plus on est en Occident, et plus même au sein de l'Occident, on est riche et plus on y a accès, que la presse papier est elle-même victime de ça, puisque les gens se méfiant, plus ou moins à juste titre, des médias, se disent que sur Internet, on va trouver des vraies infos, sauf que sur Internet, il y a parfois des infos peu crédibles.
Donc carrément du coup, fausse. Hein.
Voilà, voire carrément fausse. Donc les gens, du coup, finissent par un espèce de cercle bizarre et paradoxal à se retourner sur les sites des magazines papier. Mais ce n'est pas ça qui fait gagner de l'argent aux journalistes qu'on pourrait payer pour faire des enquêtes intéressantes. Donc voilà, il n'y a pas que ça dans cet article, extrêmement bien foutu. Et bah donc je vous conseille de ne pas aller sur le site du Monde Diplomatique, mais bien d'acheter le numéro de janvier chez votre meilleur libraire. Sur ce, Brassens.
La canne de Jeanne est morte au Guilan-Neuf. Elle avait fait la veille merveille un œuf. La canne de Jeanne est morte d'avoir fait, du moins on le présume, un rhume mauvais. La canne de Jeanne est morte sur son œuf et dans son beau costume de plumes tout neuf. La canne de Jeanne, ne laissant pas de veuf, c'est nous autres qui hume les plumes et l'œuf. Tous, toutes, sans doute, garderont longtemps le souvenir de la canne de Jeanne Morbleu.
Gring. Et voilà, hommage à Georges Brassens et la canne de Jeanne. Pourquoi j'ai choisi ce morceau, vous pouvez vous le demander. Effectivement, on aurait pu prendre La Mauvaise Réputation, Le Gorille, des choses un peu plus connues et un petit peu plus trash aussi. Mais il se trouve que la canne de Jeanne est morte au Guilan-Neuf. Donc c'est de circonstance, les amis. Et puis, c'était pour rendre un hommage à cette fameuse Jeanne, chez laquelle elle et son mari, Georges Brassens, a été accueillis pendant de longues années avec tous ses copains de la bande Des Copains d'abord, avec toujours quelque chose à manger et du tabac pour sa pipe. Voilà. Sur ce, Pascal et Philippe, bonsoir. On est vraiment super contents de vous accueillir.
Nous aussi.
Nous aussi.
Bonsoir. Meilleurs vœux.
C'est vraiment sincère. On vous souhaite tous nos meilleurs vœux pour votre grande aventure qui commence dans quelques jours. La reprise du Café Musique du Havre, qui s'appelait l'Agora il y a encore peu. Alors, vous allez nous expliquer, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet par le biais que vous souhaiterez. Brièvement, enfin non, récemment sur Internet, j'ai demandé aux gens, mais avez-vous des questions à leur poser, parce qu'on les reçoit mercredi. Envoyez-nous des emails, téléphonez-nous. Bon, on ne répondra pas, mais on pourra poser les questions à votre nom. Personne n'a répondu. Je ne pense pas que ces nombreux groupes, activistes et autres s'en fichent. Ça m'étonnerait. Surtout qu'ils ont assez crié pour avoir mieux, plus, etc. Alors, peut-être qu'ils ont manqué de temps, hein, je ne sais pas. Les questions étaient nombreuses. La programmation sera-t-elle plus rock? Quelle sera la couleur des murs? Est-ce que la pression que vous avez sur les épaules vous écrase ou est-ce que vous êtes archi-confiant? Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait de reprendre une délégation de service public? Vous voulez commencer par quoi?
La dernière est pas mal.
La dernière, c'est lance la guerre.
Je vous la fais du point de vue juridique, de administratif. Je te laisse l'honneur.
Bon.
Allez, Paca.
Alors, il y a beaucoup de questions à poser en même temps. La première, c'est que tout de suite, ça va vachement mieux. Parce que quand même, depuis un an et demi, ça fait un an et demi qu'on est sur ce chantier-là de délégation de service public. Entre le moment où on a déposé un petit dossier en mairie et puis aujourd'hui, tout de suite, là, ce qui est en train de se passer pour tout le monde, ça va beaucoup mieux parce que les murs sont en train de changer. parce que dedans c'est un peu la fourmilière, il y a plein de gens qui sont en train de bosser, de refaire tout. C'est-à-dire que déjà là, je pense qu'on ne reconnaît plus vraiment tout à fait ce que c'était. Symboliquement, parce que ce n'est que de la peinture et quelques choses comme ça, c'est vachement bien parce que ça veut dire que les choses se concrétisent.
Bah oui.
Les choses se concrétisent. Elles ne seront jamais concrétisées tant qu'il n'y aura pas eu un groupe sur la scène. Réellement, on est bien d'accord. Mais pour nous, c'est important parce que pour, jusqu'à présent, ce projet-là, il est virtuel. On en a beaucoup parlé avec quantité de gens, toutes sortes de gens. On a passé beaucoup de temps avec les gens de la mairie, des gens des institutions, mais aussi le public. À vrai, on a accueilli beaucoup de gens qui sont passés au SEM. Il y a eu une réunion publique une fois. Enfin, voilà. Mais au bout d'un moment, bon, voilà, ce côté virtuel est très... on dira pas qu'on a le poids du monde sur les épaules, faut pas déconner, ce n'est qu'un café musique. Mais quand même, là, le fait que les concerts démarrent, ça va faire vraiment beaucoup de bien à tout le monde, parce que c'est quand même pour ça qu'on se fait un peu chier depuis un an et demi, quoi. Donc voilà, tout de suite, il y a une ambiance qui est bien, parce que il y a plein de gens qui se sont investis pour la déco, pour les travaux. Il y a énormément de travaux. C'était quand même un vrai bordel, il faut le dire. Hein, le lieu, on peut redire aux gens que si ça n'a pas ouvert avant, mais c'était vraiment pas possible.
Oui, voilà, c'est une pour question quantité qu'on voulait de raisons, poser, forcément. Ouais, c'est évident, quoi. Revenir en arrière spécialement.
Il n'y a pas de caprice. Mais... On n'a pas fait de caprice en disant ouais, mais attendez, on n'a pas souhaité prendre notre temps, quoi.
Excuse-moi, pas parce qu'à l'origine, c'était l'ouverture était prévue en novembre, c'est ça.
Voilà, enfin, il y a eu même plusieurs dates pressenties. Bon, il y a eu beaucoup de surprises, mauvaises surprises. Qu'il a fallu rattraper. Donc sincèrement, ce qu'on peut dire au public, c'est que c'est pas par fantaisie, mais vraiment il y avait un tas de boulot à faire. Que tous ceux qui ont envie de jeter un œil puissent venir dans les jours qui viennent, parce qu'on est en train de finir. Normalement c'est prêt pour le 19, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr, il restera certainement des trucs, peu importe.
Donc les groupes qui vont passer vont réellement essuyer les plâtres, là, ça voilà. Sera pas une formule.
Ouais, voilà, s'ils veulent venir avant pour nous aider à finir d'ailleurs.
D'ailleurs, à ce propos, ouais, il reste des couches à mettre, des choses.
On s'y a des bonnes volontés dans le bar de la Paul Paye ce soir.
En fait, là, une question. En fait, cette question-là, je suis pas sûr que tu l'aies vraiment posée, mais enfin, elle est pressentie dans ce que tu dis. C'est un petit peu reparler un petit peu de pourquoi on a fait tout ça, quoi.
Oui,
c'est
quand même.
Que, l'idée, c'est quand même que on a tous grandi. Je parle plus des gens de ma génération. On est plusieurs ce soir autour de la table, en tout cas.
My generation. Mais,
à penser que cette ville-là mérite d'avoir des lieux de diffusion à la hauteur, parce que ça fait partie du patrimoine, voilà, tout simplement. Et que il y a des années, que pendant un certain nombre d'années, on a été tous privés les uns les autres de cette nourriture-là qui nous a tous vu grandir. Donc, on a la prétention. L'avenir dira si on est à la hauteur de ces prétentions-là. On a la prétention de pouvoir proposer au public la continuité de tout ça. Moi, je me rappelle qu'à 16-17 ans, il y a des mecs qui étaient dans des assos à Brest qui m'ont fait découvrir un tas de groupes qui font qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Donc, comme au SEM, on a un peu l'idée de la transmission puisqu'on est une école. Si on peut arriver à mettre ça dans le projet, ça, le pari sera réussi. Pour l'instant, on en est encore à la peinture. Donc, je ne veux pas non plus...
Alors, c'est vrai que j'avais fait une ouverture vraiment large en disant comme ça, il y a des questions... je reprécise quand même deux ou trois choses, bien que j'aimerais bien trouver une autre formule, d'ailleurs, que on renvoie les audinotes à de précédentes émissions, c'est pas très joli. Donc on conseille à nos audinotes d'aller voir les 100 précédentes émissions, enfin peut-être pas toutes, mais au moins celles auxquelles tu as déjà participé, puisque quand tu parles d'école, voilà, bon, on a déjà reçu le SEM presque au début de la radio, il y a donc pas loin de 5 ans. Tu étais revenu nous parler d'un certain nombre d'évolutions avec également Crumble Lane et Monsieur Bu, émission mémorable s'il en est, et voilà, qui est toujours en ligne sur Radio Apple Pie. Et puis, effectivement, sans faire trop de retour en arrière, mais je pense qu'on sera obligé un petit peu quand même, plusieurs artistes dont on ne va pas forcément citer les noms, ici même à ces micros, n'avaient pas toujours été contents de la précédente délégation de services publics et donc de la gestion de l'Agora. Bon, donc ça a été dit, c'est peut-être pas la peine, enfin, mais c'est comme vous le souhaitez, de revenir entièrement là-dessus. Hein. On avait dit que, bon, très vite, beaucoup trouvaient que les jeunes groupes n'étaient pas accueillis de la façon souhaitable, qu'il y avait peut-être des problèmes aussi au niveau des locaux de répétition, chose sur laquelle on pourra peut-être revenir aussi. Il y a eu des problèmes qui ont été devant la justice au niveau de harcèlement du personnel. Il y a eu une fameuse pétition, je voulais quand même revenir un petit peu là-dessus, parce qu'il me semble qu'elle avait été initiée quand même à part les groupes par le SEM et Papas Productions. Et ça sera peut-être ma seule question, si ce n'est piège, de la soirée. À l'époque, on s'est quand même demandé, et d'aucuns disaient fortement, mais en faisant cette pétition, peut-être qu'ils ont déjà dans l'idée de reprendre éventuellement la gestion de cette salle. n'aviez pas forcément tout de suite dit oui. Cette intention, elle était quand même dans votre tête. Enfin, c'était un espoir, une ambition que vous aviez quand même.
En toute franchise, pas du tout, parce qu'on avait encore le secret espoir que quelqu'un le ferait, quelqu'un d'autre que nous, en tout cas. Parce que pour être franc, c'est vrai qu'on a d'autres projets, on a autre chose à faire. On a déjà eu l'école et quantité de choses autour. On n'a jamais eu d'intention machiavélique de ce sens-là. Par contre, effectivement, c'est arrivé peu de temps après, puisque cette histoire de délégation est arrivée. On a su que de toute façon, si nous, on ne se présentait pas, enfin, on ne déposait pas un dossier,
ça ne serait pas fait.
Personne d'autre le ferait. Donc, à un moment, il faut être à la hauteur de ses responsabilités, parce que faire une pétition, c'est bien. Gueuler, c'est bien. Critiquer, pointer du doigt et tout ça. Mais à un moment, il faut assumer. Donc, on a pris nos responsabilités. On a dit, on y va. Voilà.
D'accord. Non, je ne vous prêtais pas d'intention machiavélique. Je voulais liquider ce problème-là.
Je le dis pour les auditeurs. Je sais que toi, non.
Voilà. Et puis, si tu t'en souviens, cette pétition avait été beaucoup signée. Je me rappelle d'avoir vu circuler beaucoup d'exemplaires papier. Ça avait eu un gros accueil.
Oui, gros accueil. De mémoire, je crois qu'on a eu dans les 700 signatures, quelque chose comme ça. Bon, c'est loin d'être négligeable, hein, quand on pense que c'est le public qui vient au concert. Il y avait toutes sortes de gens. En plus, quand on voyait, il y avait des musiciens, simplement des gens qui viennent au concert, des amateurs de musique, quoi. Donc, ça nous a nous-mêmes vraiment confortés dans l'idée qu'il y avait du sens dans le fait de gueuler et de pointer du doigt des dysfonctionnements, comme on disait à cette époque-là.
D'accord. Avant de continuer avec tout ce que vous avez à nous dire et puis des questions qu'on a à vous poser, on va peut-être présenter Philippe, donc, qui est directeur de ce nouveau projet, des cabarets électriques. Et...
Oui, moi, je suis arrivé plus récemment, donc c'était normal que... PACA inaugure ce temps de parole puisque ça fait partie des gens qui ont milité pour récupérer ce lieu et en faire ce qu'on espère et ce que les gens attendent, quoi. Donc c'était important qu'il ait la primauté de la parole.
Mais tu n'es pas un inconnu pour nous et pour nos audinotes, puisqu'on a déjà eu l'occasion, même si tu n'étais pas là, de parler de toi.
Notamment... en bien, j'espère.
Mais bien sûr, en bien.
Écouter les émissions, tu sauras.
Bah, notamment quand Doris, qui est présente d'ailleurs ce soir dans la salle, nous a présenté son premier projet de film Alfès, qui est un festival vraiment formidable et qu'elle n'avait pas justement pu organiser au Havre même. Et elle était très contente que tu reçoives ce festival à l'Arcade, à Notre-Dame de Gravenchon. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on avait parlé de toi. Et puis une autre, puisque tu as fait venir un artiste qui nous, et notamment moi, nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Magie de Cherfi. Et j'avais trouvé que c'était notamment assez courageux de l'avoir fait venir, au sens où, si je ne m'abuse, hein, si je me trompe, tu le dis, tu avais déjà fait passer Zebda.
Non, je n'avais pas fait passer Zebda.
Tu n'avais pas fait passer Zebda, ouais. Voilà, tu vois, je n'étais pas sûre de ça.
Je n'avais pas fait passer Zebda parce que c'était beaucoup trop gros pour la salle. Après, je pense que c'est le rôle aussi d'un directeur de salle ou d'un programmateur, c'est qu'on écoute un CD, on rencontre un artiste, enfin... On lit un petit peu ce qu'il fait et Magic Cherfi à ce niveau-là, c'est un coup de cœur, donc il me paraissait important de le présenter au public et c'est ce qu'on a fait. Après, c'était une soirée un peu particulière parce qu'il n'y avait pas forcément eu énormément de monde, mais c'est là où on a vu la qualité de la personne, puisque même si on devait être, je sais pas, 60-70 dans la salle, il nous a fait un concert qui reste parmi mes plus beaux souvenirs à l'Arcade, parce qu'il a su à un moment donné... s'adapter au public qu'il avait en face de lui, et plutôt que de faire un concert où effectivement il y aurait eu 400 personnes et il aurait joué sur l'énergie, il a joué sur l'intimité. Ça s'est fini dans la salle, presque il manquait plus que le feu et on était tous autour de lui. Et ça s'est
c'était extrêmement chaleureux, effectivement.
Ouais, c'était vraiment très, très,
avec
très,
beaucoup
très
de reprises de Brassens, oui, et des morceaux plutôt rares, d'ailleurs, pas forcément très connus. Non, mais c'est vrai, si tu veux, on avait déjà salué ça, parce que je pense que tu te doutais, effectivement. Bon, Zebda, c'est vrai, j'aurais pu penser que bon, c'était peut-être un peu gros pour Arcade à ce moment-là. En même temps, Magie de Cherfi, même si on savait que ça ne ferait pas autant de monde, parce qu'à ce moment-là, ils étaient avec des milliers de personnes, quand même, souvent, effectivement, dans certains concerts. Là, ça n'a peut-être pas été non plus à la hauteur de tes espérances. On dit Magide, je veux juste dire ça parce qu'on on parle beaucoup de lui, parce que c'est vrai que c'est un album personnel. Il tenait, bon, on a fait une très longue et formidable interview. Il nous a donné une heure d'interview magnifique, qui sont toujours en ligne aussi sur le site de la radio. Mais il a aussi un groupe extraordinaire, quoi, des musiciens.
Ça montre que malgré le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans la salle, ça n'empêche pas d'avoir des beaux concerts. un rapport avec le public qui soit intéressant et puis une belle soirée. Enfin, là, c'était vraiment... Je regrette en aucun cas de l'avoir présenté, même si effectivement, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de monde. Mais...
Avec Chantimen Express en première partie, oui. qui était aussi une bonne idée et qui, je suppose, enfin voilà, ça va nous peut-être amener à votre projet de maintenant. Il sera peut-être dans l'esprit de ce que vous avez envie de faire, de faire découvrir aussi des groupes locaux, même s'ils en sont au stade d'un premier album, voire avant. Enfin.
C'est de présenter l'ensemble des artistes qui sont nationaux, internationaux ou locaux, même si on peut hiérarchiser entre guillemets d'un point de vue géographique, il n'y a pas de hiérarchie en termes de qualité. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est surtout de présenter des artistes de qualité qui méritent d'être présentés, et qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux, à la limite, ça n'a pas d'importance.
On s'en branle. C'est la phrase de l'année 2017.
C'est la nouvelle année, minuit.
Nous, on est comme ça, Radio Apple Pie. Au lieu de s'embrasser sous le gui, on dit on s'en branle. Et avant d'écouter le.
Radio Apple Pie, une autre forme de rusticité.
Oui, voilà, ça c'est. Merci Jérôme Sirot.
Les vraies valeurs de la France.
Avant d'écouter le premier morceau que vous avez choisi pour la playlist de ce soir, parce qu'évidemment, c'est vous qui avez fait la playlist, peut-être qu'on peut te demander justement, est-ce que tu as des nouvelles de Magie de Cherfi, puisqu'on est énormément en manque quand même, ça fait presque 3 ans.
Il y a un album qui est en préparation et il devrait un album qui devrait sortir au printemps et une tournée qui devrait suivre et j'espère secrètement pouvoir le faire venir.
Nous aussi on espère, hein, moins que secrètement ou plus, je sais pas. On t'attend, Magie, d'oreilles fermes. Alors, les gars, ce premier groupe que vous avez choisi, pourquoi, pour qui, c'est qui?
Alors, Adam Kescher, qui va donc faire partie de la première soirée. C'est un groupe de Bordeaux qui fait un rock pur et dur, qui a obtenu le Fer 2007, donc, c'est-à-dire 20 groupes qui sont sélectionnés pour représenter un peu les nouvelles productions intéressantes sur le sol français. Voilà, c'est du bon rock et ça va venir en point des autres groupes qu'il va y avoir sur cette soirée-là avec Mouloud, Sonic and the Sonic Destruction, et puis Alamor Astrax, et puis Bunker Palace Hotel qui va représenter la région puisqu'ils sont de Dieppe.
De toute façon, juste après ce morceau, on va parler de vos 3 soirées d'ouverture, pas de problème. Everyone Madame Kescher. Donc Philippe et Paca, on va vous demander comment vont se dérouler ces trois soirées d'ouverture, donc les 19, 20 et 21 janvier, si je ne m'abuse.
On ne sait pas.
Vous savez pas, bah non, forcément. Bon, donc pas comment elles vont se dérouler, mais comment vous avez fait le choix de la programmation, parce que je suppose que vous aviez quand même le choix entre pas mal de groupes et d'artistes.
On avait possibilité de faire du clinquant et de faire venir The Tête d'affiche, qui nous aurait mangé la moitié du budget, et après on aurait fait pas grand chose. On est parti sur une autre hypothèse de travail en se disant que, puisqu'on avait beaucoup parlé de projets sur ces derniers mois, c'était bien de donner concrètement à lire sur ce qu'on allait faire. Et donc ces trois soirées représentent trois axes du projet qui a été soutenu et qui va être mis en place donc à partir du 19. Donc la première, est, vous avez pu l'entendre, est une identité forte, éventuellement rock.
Faut dire ça comme ça.
avec des groupes plutôt découvertes. Là, Adam Kescher, Almora Strock, c'est pareil, ça fait pas partie.
C'est pour ça que Double Shot n'ont pas joué, parce qu'ils étaient un peu trop jeunes pour là.
Ils étaient trop connus. Et sur la deuxième soirée, on est parti sur l'idée que on défendait les productions locales et que on mettait en avant les groupes locaux et qu'on pouvait leur donner toute leur place, c'est-à-dire une soirée entière. Et donc, on a offert une carte blanche à Crumble Lang. Donc avec un invité parisien qui s'appelle Ogwash, qui est leur invité, puisque c'est eux qui l'ont choisi.
Ils ont fait écouter avant quand même, ou une carte blanche, ça veut dire
Non, carte
rien,
blanche, on a écouté par...
Par curiosité.
Par curiosité, exactement. Voilà, mais on leur a laissé, il n'y a pas eu de censure sur cette soirée-là. Et puis la dernière, sur une action autour de la pratique amateur, et sur l'idée que on essayait de donner un coup de pouce aux futurs grands musiciens havrais. Donc on permettait à des très jeunes groupes qui sont dans des ateliers, qui sont des jeunes groupes constitués autour duquel il y a un accompagnement de différentes structures. Donc c'est le cas dans le réseau Troc. Donc le réseau Troc, c'est un réseau qui mélange des écoles de musique, donc le SEM, l'école de musique de Pont-Audemer, l'école de musique de...
C'est un réseau donc local ?
Ouais, local. L'école de musique de Port-Jérôme, enfin de Gravenchon et de Lillebonne, avec des lieux de diffusion, donc l'Arcade, nouvellement le Cabaret Électrique, et puis peut-être d'autres qui viendront nous rejoindre plus tard, de pouvoir permettre à ces jeunes musiciens de se produire sur différentes scènes, différents lieux. Donc là, c'est au Cabaret Électrique pour cette soirée du 21. Il y aura une diffusion lors du Festival du Mascaret, il y aura une diffusion à l'Arcade, enfin voilà. Donc ça permet à ces jeunes musiciens en herbe de se confronter à des publics différents, à des scènes différentes, à des conditions différentes.
Pour, avec une thématique étonnante quand même, non ? Ou c'est moi qui trouve ça étonnant, mais...
Deux.
Une thématique ?
C'est pas, ou alors je suis en train de me planter complètement, c'est pas cette soirée-là qui est sur Airbnb Bangkok ?
Non.
Je me vautre totalement.
Ah oui, pas du tout.
Et voilà ce que c'est de pas avoir le programme sous les yeux.
Airbnb Bangkok, c'est plus tard.
Eh bien, tant pis.
Je tiens à dire qu'on ne dit pas musicien en herbe, jeune musicien en herbe. Ça peut laisser supposer des trucs.
C'est vrai.
Et c'est connoté.
Toute substance est évidemment
prohibée. On dit jeune musicien en chef.
Donc voilà, les trois soirées représentent trois axes du projet. Après, il y a évidemment d'autres axes qui seront développés plus tard, mais c'était des axes qui nous paraissaient importants de mettre en avant. Donc et tout est en entrée libre, ce qui va permettre à chacun de pouvoir venir voir le lieu, la peinture, les travaux qu'on a faits, et puis surtout, j'espère, écouter de la bonne musique.
Ça nous tend une perche pour savoir, ou en tout cas un micro, pour savoir si dans les travaux que vous avez faits, outre toute la réflexion apparemment, puisque tout n'avait peut-être pas été laissé en l'état voulu, est-ce que vous avez changé des choses au niveau de la disposition ? Personnellement, ça ne m'a jamais grandement gêné, mais d'aucuns ont dit que c'était mal foutu, cette salle.
Nous aussi, on l'a toujours pensé. C'est un des premiers trucs sur lequel on a planché. Impossible. Techniquement, c'était impossible de déplacer cette scène. Il y a des contraintes de hauteur de plafond, d'éclairage. Enfin, je pense que les détails, c'est pas très important. Mais en tout cas, c'est sûr, on y réfléchit, c'est pas possible. Alors, la façon de pallier à ça, c'est de réduire la capacité. Alors, ça peut paraître bizarre, les mecs, ils ouvrent une salle, ils disent on va mettre moins de monde. Parce qu'en fait, parce que globalement, ça nous est tous arrivé, je pense, au moins une fois ou deux, de venir au concert et finalement de se retrouver au bar, voir le concert sur un écran. Mmh. Alors quand on défend le spectacle vivant, je trouve ça quand même très paradoxal.
Des fois, c'est parce que les gens sont feignants et se retrouvent avec des amis aussi.
Ça, c'est toi qui le dis, Juliette. J'ai pas dit ça, moi. Ça, c'est toi qui le dis. Mais en tout cas, quand c'était plein, c'était à 600, 700 personnes. C'est très chiant, quoi. Donc plutôt que. En gros, on est à 450 à peu près personnes qui pourront entrer, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que c'est vrai qu'en face de la scène, on met pas tant de monde que ça. Mmh. L'idée, c'est quand même que les gens passent une bonne soirée, quoi qu'il arrive. Donc ça fait partie des choses, quoi. Si on peut pas être en face de la scène et voir le groupe dans ces conditions-là, personnellement, je trouve ça embêtant.
C'est vrai, mais je trouve que ce.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne au bar.
Exactement.
Voilà. Ah, c'est le souhait en tout cas. Bon, je trouve que ce petit côté n'était pas si mal que ça. Et puis par rapport à des critiques sur le fait que la salle ne sonne pas forcément bien, je ne sais pas ce que vous en avez fait de cette acoustique, mais d'aucun grand sonorisateur qu'on connaît, et notamment Loïc Jamais, ont réussi à la faire sonner extrêmement bien, donc il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison. Puis en plus, il y a eu quelques petites choses de fait en ce domaine.
Oui, un petit travail sur l'acoustique avec un système de pointe de rayonnage qui va permettre d'essayer de donner un peu plus de chaleur au son, quoi. Mais évidemment, on ne va pas révolutionner le son de la salle. Si on ne bouge pas le bâtiment, c'est très, très compliqué. Donc, après, effectivement, il y a aussi la qualité après des gens qui sonorisent dans la salle et qui font que ça sonne plus ou moins bien.
Et vous, forcément, vous en avez des bons.
Que des bons.
Oui. Pour conclure sur ces trois soirées d'ouverture, on peut dire que ça sera a priori l'esprit de ce que vous voulez continuer à faire pendant les nombreuses années qui vous restent.
Et ça, une mise en bouche.
Voilà, d'accord. Eh bien, présentez-nous, s'il vous plaît, le morceau suivant que vous avez choisi.
C'est Abdelmalik, qui commence à émerger, qui a obtenu le prix Constantin cette année, qui est un jeune rappeur slammer alsacien qui a rencontré tout un tas de bonnes personnes, et notamment d'ailleurs le contrebassiste de Brel, avec qui il a travaillé sur bon nombre de morceaux. Il y a une reprise d'ailleurs sur l'album Ces gens-là. C'était un petit coup de cœur qu'on avait vraiment envie de mettre en avant, puis ça tombe bien, il a eu le prix Constantin, c'est bonus pour nous. C'est une manière d'appréhender le rap et de peut-être régénérer ce courant musical.
Et Grand Frère, une raison précise de choisir ce morceau-là?
Non, parce qu'on aime tout l'album, donc on en a choisi un au hasard.
D'accord.
Hier, Hubert a pris l'avion. Hubert, c'est mon frère qui rentre à la maison. C'est vrai que c'est important d'avoir un frère, surtout un grand frère. Ça fait 3 ans qu'il part chaque été au pays. Il aide comme il peut là-bas, c'est la misère. Surtout qu'on a toujours envie de montrer qu'on est bien ici, on entretient le mythe. Hubert, c'est un homme, il leur dit. Vous savez, en France, la misère, ça existe. Mais ils veulent pas le croire. Ils disent, tu veux pas qu'on vienne, c'est ça? Lui, il comprend leur attitude. Il leur dit juste comment ça se passe, quoi. Parce que si on veut changer le monde, c'est de chez soi qu'il faut le faire. Mais au pays, on lui répond, t'es un blanc maintenant. Ça se voit que tu connais pas la misère. Hier, Hubert a pris l'avion. Hubert, c'est mon frère qui rentre à la maison. En fait, c'est mon cousin, mais je dis que c'est mon frère. Parce que dans la cité, quand t'as un grand frère, ça t'évite plein de galères. Surtout quand il est bœuf comme ça. Parce que les mecs en bas, y a que la force qui respecte. Lui, c'est un homme et moi, je suis un gosse. Enfin, disons que de plus que moi, il a au moins 3 têtes. Et puis, c'est pas tout, moi, je déconne et pas lui. Il me fait pas la leçon ou quoi, mais j'ai honte devant lui. Parce qu'avec le physique qu'il a et la crainte qu'il inspire, il pourrait facilement être braqueur, dealer, je sais pas moi, ou voleur à la tire. Mais lui, non. Il est sérieux. Il étudie. Hier, Hubert a pris l'avion. Hubert, c'est mon frère qui rentre à la maison. C'est vrai que c'est bien d'avoir un grand frère. À l'aéroport, on l'a vu, un gaillard comme ça, ça se loupe pas, frère. Pourtant, il paraît qu'il a failli louper cet avion. Ce drôle d'avion. Il voudrait faire de grandes choses dans l'avenir. Avoir son diplôme, bosser dur pour tous de la cité nous faire sortir. Mais il l'a pris cet avion. Ce DC-10 du TA pour ceux qui aiment les précisions. Celui qui a explosé au-dessus du désert du Ténéré. Hubert a pris l'avion, mais... Il n'est jamais rentré.
0. Abdelmalik, donc, sera de Apple Pie. Alors, Abdelmalik, j'espère bien qu'il voudra nous donner une interview pour la radio, parce qu'il nous intéresse aussi beaucoup. Alors, ce rappeur alsacien, comme disait Philippe, est assez intéressant à divers titres, puisque en ce moment, et c'est tant mieux, hein, franchement, je n'y mets aucune causticité, il est un petit peu sur tous les médias. Il a quand même la particularité d'être presque trop beau pour être vrai, puisqu'il est à la fois beau, noir, quoique alsacien, qu'il a été, dit-il, un petit délinquant, et puis il s'est sorti de la délinquance. Il s'est sorti de la délinquance par un islam, comme il le déplore lui-même, radical, qui aurait pu le pousser à aller prendre des kalachnikovs pour aller, qui sait, lutter en Afghanistan. Rejoindre Al-Qaïda, Bon, et non, il n'a pas fait ça. Il s'est plutôt rapproché du soufisme et puis il s'est rapproché de l'intelligence, de la tolérance. C'est ce que racontent ses paroles. Et c'est vrai que ce sont de très belles musiques. Et voilà, quoi. Bravo pour ce choix. J'espère qu'on pourra en discuter avec
lui. Il dénote dans le discours habituel que peuvent avoir certains rappeurs. Et cette ouverture qu'il a, puisqu'il est accompagné par des musiciens de jazz, donc cette ouverture, elle est à tous les niveaux, aussi bien dans ses paroles que dans sa musique et dans l'approche qu'il a de son métier d'artiste, quoi.
Bah oui, c'est vrai que ne serait-ce que le fait pour quelqu'un de cette jeune génération de travailler avec quelqu'un qui a travaillé avec Brel si longtemps, de bosser sur des albums avec Juliette Gréco, c'est quelque chose aussi d'intéressant. On écoutera au fur et à mesure, évidemment, des choses que vous avez choisies pour votre programmation. Qu'est-ce qui semble pour vous vraiment passionnant dans ces artistes que vous allez choisir pour les mois qui viennent? Et peut-être, si vous voulez, ce qui peut vous différencier justement de la programmation précédente?
D'affirmer des choix, en fait, dans cette première programmation qui est certes perfectible et qui va s'affiner au fil des mois. Je pense que la vraie identité du lieu, il faudra au moins peut-être 2 ou 3 programmations pour commencer à la définir. Ça prend du temps de construire aussi une ligne artistique. C'est d'abord de faire des choix. C'est de dire je programme tel artiste parce que son propos m'intéresse. Et je pense que voilà, à partir de ce moment-là, tout est justifiable si on y croit et si on a envie de le défendre. On n'a pas envie de quelque chose de tiède, quoi.
C'est-à-dire que vous allez faire vraiment de l'action culturelle. J'emploie ce mot à escient parce que on était il y a 2 jours au volcan où malheureusement le département Images et Ginette Dessler s'en vont, ce que je trouve très triste. Et on salue Ginette d'ailleurs avec une très belle projection ces temps-ci de cinéma et art de la scène, auquel on vous invite à aller voir les séances à l'Éden ces jours-ci. Ça a commencé ce soir d'ailleurs. Il a été beaucoup question d'action culturelle, qui est un petit peu opposée à la notion de rentabilité. Donc ça veut dire que vous vous positionnez comme ça aussi?
En fait, l'idée, c'est quand même le travail avec le public. Ça, c'est ça le sens, à mon avis, à donner à l'action culturelle. C'est-à-dire que les jeunes générations sont en demande de plein de choses. D'une part, de voir les artistes qu'ils ont envie de voir parce qu'ils les aiment, tout simplement au premier degré. Je pense qu'il y a des tas de choses à faire découvrir aux gens, à partager, c'est bien cette idée-là, faire partager différentes cultures, des croisements possibles. Et ça, ce lieu-là, c'est quand même une occasion assez formidable de le faire. C'est pas la seule, parce que je pense que tu as prévu de nous interroger aussi là-dessus, donc peut-être que j'anticipe un peu.
Vas-y.
Mais on a prévu de faire tout un travail sur l'accompagnement de jeunes groupes. Alors accompagnement, ça mérite d'être précisé, qu'est-ce qu'on met dans ce terme-là qui est galvaudé par les temps qui courent.
Oula.
Bon, en tout cas, de manière très concise, on peut dire que c'est un sacré coup de main qu'on donne selon les besoins de ces groupes qui sont différents, divers et variés. L'équipement permet de filer un coup de main parce qu'il y a une scène, puis surtout des moyens humains. Il y a des gens qui peuvent, des gens expérimentés qui peuvent donner un gros coup de main et en tout cas faire gagner beaucoup de temps à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui ne fait que commencer, comme tout le reste d'ailleurs. Après, je repasse la parole à Philippe parce qu'il a sûrement quelque chose à dire là-dessus. Il y a déjà eu un boulot de fait là, très récemment, avec un de ces groupes qui, à mon avis, rentre dans ce qu'on appelle l'action culturelle. En termes d'accompagnement, d'abord, je te passe la parole tout de suite, Philippe.
Allez, pof.
Au sujet de Yorapien, avec qui, groupe à vrai, avec qui il y a déjà eu des choses.
Oui, on a voulu être aussi dans l'action, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on était dans l'attente d'une réouverture, dans les travaux, qu'on n'a pas eu des demandes, qu'on n'avait pas, nous, envie d'agir. Et ce jeune groupe, Europien, qui a été présélectionné pour le printemps de Bourges, est venu un lundi matin après avoir obtenu sa sélection pour une date au Trianon pour en vue de Bourges, est venu nous frapper à notre porte en disant « qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» Et on a saisi la balle au bon en se disant bah, « on n'a pas le droit de les laisser tomber, même si effectivement bah, notre salle n'est pas à disposition et est en travaux. » On s'est dit bah, « il faut qu'on y aille ». Et donc on a mis les moyens qu'on pouvait mettre, et puis les moyens qu'on n'avait pas forcément à disposition, c'est-à-dire notamment la partie scène,
bah oui,
et ben, on a trouvé d'autres solutions. C'est-à-dire on a été s'associer avec nos petits camarades de l'arcade. Bon, c'est vrai que j'avais des facilités pour rentrer en contact avec eux, mais qui nous ont donné un coup de main. À charge de revanche demain, si des artistes de Gravenchon ont besoin d'un moment de scène et que l'arcade ne peut pas. Donc voilà, l'idée, c'est de se mettre au service des musiciens, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, quel que soit leur parcours, pour bah, les accompagner, les aider dans une préparation, dans une démarche, dans un projet
oui,
artistique.
Oui, ça a l'air vrai. Bon, je crois qu'il y a déjà de la demande dans la salle. Concrètement, ça veut dire, par exemple, la possibilité de répétition, bon, résidence, c'est peut-être un bien grand mot, mais d'avoir une salle avec à disposition sonorisation, éclairage, compétences pour travailler. Ça se passe comment, concrètement?
Alors, ça peut être ça. Ça peut être effectivement préparer la scène, tout simplement. L'idée, c'est quand même de le faire accompagné par des gens. Des gens étant des musiciens expérimentés qui filent un coup de main.
Des chorégraphes avec des grandes tresses blondes, non?
Ah non, ah non, on a arrêté ça, fini ça. Donc c'est à la fois bah, conseiller, quoi, simplement dire, voilà. Et en fait, beaucoup de groupes s'interrogent et apprécient d'avoir une oreille extérieure, en tout cas, au minimum. Et même si certains groupes ont de la pudeur par rapport à tout ça, c'est-à-dire que et on, loin de nous l'idée de vouloir absolument imposer et formater quoi que ce soit, mais il se trouve que dès qu'il y a de l'offre, il y a de la demande dans ce domaine-là, et il y a plein de groupes qui viennent, et ça on y est confronté depuis un petit bout de temps, qui ont besoin de toutes sortes de choses, quoi. Ça veut dire effectivement les équipements, la scène, les éclairages, est-ce que mon set il tient la route, est-ce que notre son il est bien,
voilà,
est-ce,
bah
que,
oui.
est-ce que puis comment on fait pour tourner, puis comment les histoires de contrats, enfin ça part dans tous les sens. Mais justement, toutes ces questions là bah, si ces questions sont posées dans la boutique, on se doit, nous, d'avoir une réponse à donner. Donc on va se démerder pour donner des réponses à tout le monde dans la mesure du possible.
Ce qui m'amène à une des questions, alors forcément ça va être un peu en vrac, vous avez prévu des choses à dire, on a prévu 2-3 trucs à vous demander.
On n'a rien prévu, nous.
Ça coïncide plus ou moins. Non, bah, il se trouve que effectivement on a parlé de Philippe qui vient de l'Arcade, donc qui connaît la programmation, la gestion d'une salle, etc. Bon, le SEM, on ne va pas tout expliquer puisqu'effectivement on ne les renvoie pas, mais on conseille aux audinotes d'aller écouter tout ce que tu nous as raconté précédemment. Il y a aussi dans l'équipe, puisqu'en fait, on ne l'a pas dit, ça, que le cabaret électrique est géré par l'association Iguane. Et donc, dans l'Iguane, on retrouve bon, ce qu'on vient de dire, et aussi des gens qui font partie de Papas Productions.
Oui.
Donc, qui peut-être, eux, ont justement ce côté-là. Vous avez réuni des compétences pour aider un peu dans tous les domaines artistiques, peut-être, on peut dire ça comme ça.
Bah, les domaines artistiques, en tout cas, ce qui est complémentaire, c'est que eux, ils font un travail avec des groupes locaux très concrets, qui est entre le management, le conseil, effectivement l'hébergement, le secrétariat artistique, des choses comme ça. Nous, on est plutôt sur la formation, donc forcément, bon, déjà à ce niveau-là, on s'entendait plutôt bien. On rajoute un lieu de diffusion avec. Là, c'est vrai que cette chimie-là commence à être pas mal, parce que là, on a un petit peu tous les outils pour faire le travail, quoi. Puis ça tombe bien, on a vachement envie de le faire, quoi.
Ouais, vous êtes archi contents. Ça se voit, ouais. En fait. Vous les voyez pas, mais ils sont archi contents. On va reparler de ça et puis approfondir avec aussi les locaux de répétition. Mais écoutez, cette fois-ci, on va changer. On écoute le morceau suivant que vous avez choisi et vous nous le présentez après, d'accord?
Ouais. Je suis parti sans corps sous de la nuit, méprime, comme des corments suprêmes, crachant mes adieux à Paris. Et me voici, ma bonne femme. Oui, foutu comme 4 sous, mon linge est sale aussi, mon âme, et me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Voici ce linge goûte à menthe, et maintes fois un vin amer, où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, des mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise, gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du four, que tout mon linge de bohème repose durant tout un jour. Et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Tout comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurai conté ma vie, malheureuse d'affreux salaud. Ainsi qu'on rince à la fontaine, le linge au sortir du cuvier, mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé, tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment.
Oui, alors on écoutait Loïc L'Antoine. Et bah lui aussi, on est très content que vous l'ayez choisi.
Nous et aussi.
À vous de nous dire pourquoi.
ça fait partie de ces artistes qui représentent, qui sont la passerelle entre une certaine tradition de la chanson française et puis une scène un peu plus alternative. Loïc L'Antoine est signé sur le label des Têtes Raides. Il est originaire du Nord, il nous raconte plein d'histoires, il a une vraie écriture. Il joue avec son contrebassiste et camarade François Pierron. Ça donne un duo, même si c'est Loïc L'Antoine qui est sur la tête d'affiche, qui est très intéressant. Des fois, il chante, des fois, il ne chante pas. Son collègue lui répond. Il a des invités sur scène. Enfin, voilà, c'est à chaque fois une découverte, à chaque fois un nouveau spectacle. Et puis j'aime bien, quoi. C'est une bande de potes au coin d'un bar en train de nous raconter des histoires, donc c'est bien.
Ouais, des histoires assez rebelles en plus, c'est vraiment intéressant. Moi, je ne connais pas bien ces disques, contrairement à Leslie ici présente et Monsieur Jack Deswink, mais on l'a vu. Et tiens, profitons-en pour envoyer tous nos voeux de réussite et de continuité à Frédéric Taddeï, qui, avec Ce Soir ou Jamais, à la fois donne la parole à beaucoup de gens qui ne l'ont pas, souvent sur des sujets profonds où les invités ne sont pas coupés, où ils peuvent exprimer vraiment leurs idées, et qui chaque soir fait aussi passer un artiste live, et c'est plutôt pas mal. Donc c'est comme ça, entre autres, que on a pu voir Loïc L'Antoine, que ici à Radio Apple Pie, l'excellente Agathe des excellentes Korat et Chantaboun avait choisi aussi dans sa playlist. Donc voilà, hein, petite famille du rock et de la chanson qui voilà. Au-delà de ça, oui, donc lui passe, on pourrait peut-être dire la date si on s'en souvient de tête, le 13 février.
Le 10 février.
Si tu donnes des mauvaises dates.
Le 13, c'est Abdelmalek.
Mais prends le programme.
Non, c'est le 17.
Le 17, Abdelmalek. Et le 10,
Loïc
L'Antoine avec Yaka.
Renonçons à tout ça. Et puis, sachons et répétons à nos invités que l'agenda de Radio Apple Pie est sur notre site. Leur est ouvert et qu'évidemment ils peuvent y mettre leur programmation en long, en large et en travers et avec des commentaires.
Merci beaucoup.
Et avec plaisir les commentaires.
Mais oui, voilà, mettez tout ce que vous voulez. Puis on espère aussi que les audinautes réagiront par rapport à ça, parce que c'est aussi le but d'avoir un site sur internet quand même.
Et puis on a besoin de ces retours là aussi, puisque là on est en phase de construction, donc à un moment donné on a aussi besoin qu'on nous dise bah là c'est bien, là c'est pas bien. Alors après on tirera et on fera le bilan de tout ça. Mais on a aussi besoin qu'on nous dise d'avoir des retours, quoi, pour ne pas s'enfermer et puis pouvoir évoluer dans notre projet, quoi.
À mon avis, vous inquiétez pas. Hein,
oui, je pense, je m'inquiète pas trop là-dessus.
On n'est pas inquiet de ce côté-là.
En même temps, dans ta réponse, Philippe, c'est bien parce que tu tendais une perche une fois de plus pour plusieurs choses à la fois.
C'est-à-dire que tu as perchman, en fait.
Parlé de en construction. Ah, c'est ça, tu as une autre carrière dans le cinéma, ça, voilà. Qui fait que. En construction, hop, et on parlait de site juste avant. Donc, votre site. Ah, la transition est malhabile, certes, mais enfin voilà. Le site du cabaret électrique est en construction, non, c'est cela.
Il est même en ligne, logiquement. Alors peut-être ce soir, au pire demain
c'est
matin.
C'est pas vrai.
Au pire demain matin, donc cabaretelectrique.fr, tout attaché pour cabaret électrique.
Dites-moi pas que c'est pas vrai. Tout le monde va dire que j'ai dit que des conneries ce soir. Mais franchement, j'y suis allé hier, voire même ce matin, et c'était pas encore.
Non, il était toujours pas en ligne.
Ah bon. Alors,
non, mais on peaufine, on est minutieux, on est pointilleux, donc.
Donc, en tout cas, on pourra sur votre site, je suppose, savoir des tas de choses. Lesquelles, par exemple,
bon, la programmation. On trouvera la programmation, effectivement. Oui. Les liens vers les sites des artistes qu'on n'a pas forcément mis dans la plaquette. Il y a des oublis. C'est une phase de rodage. Alors, des fois, il y a quelques oublis dans nos supports.
Le lien vers le site de rap, évidemment.
Voilà, il y aura des liens avec des amis et partenaires. Et puis, il y aura aussi une présentation succincte du projet de l'association Iguane, des informations pratiques sur qu'est-ce que l'accompagnement artistique, et notamment une interview de Europienne pour expliquer un petit peu leur parcours. Il y a aussi les infos sur les studios de répétition. Et ce site, de toute façon, devrait évoluer. Enfin, voilà, c'est une première mouture. On devrait, après, avoir des choses magnifiques en 3D qui bougent. Et
ils font avec 360 degrés
Ils font gring-gring et tout ça.
Bon, je n'ai rien dit. Ça sera l'objet d'une autre émission. Mais en tout cas, Perchman again, puisque, effectivement... ça me fait penser à des choses, mais bon, non. On voulait parler, justement, des studios de répétition, donc c'est bien... Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une différence avec ce qui se passait avant? Bon, il y a un certain nombre de studios et puis voilà.
Bon, une qualité de service au moins, déjà, c'est le minimum. Mm-hmm. Donc là, les studios ont été rééquipés pour avoir du bon matériel qui fonctionne bien, qui permet au groupe de pouvoir répéter dans de bonnes conditions. Et puis, comme l'a dit Paca tout à l'heure, l'idée, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un de référent qui puisse aller voir les groupes, discuter avec eux. C'est un mot qu'on n'a pas beaucoup prononcé depuis le début, mais l'idée, c'est le dialogue. C'est-à-dire que dans tous les compartiments du travail qu'on va faire, il y a une première phase de dialogue, y compris avec ces jeunes groupes. C'est d'aller les voir, de discuter avec eux.
Alors, certains, ça va de toi.
Voilà, ouais, ça commence par ça. Et puis après, ça peut déboucher sur effectivement, on aurait bien besoin de quelqu'un qui nous suive, de quelqu'un qui nous accompagne. Voilà, donc...
Donc référent, parce que c'est des mots qui font quand même un peu peur, hein, même pas qu'aux jeunes groupes, même aux vieux de la vieille comme moi, on va dire des musiciens qui ont un peu de bouteille, qui savent en faire, qui connaissent les choses de la vie et de la route.
C'est très bien résumé, Juliette, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des aînés qui ont déjà éprouvé la scène, la route, éventuellement l'enregistrement, donc qui sont à même de pouvoir... et qu'on a la volonté de le faire, parce que c'est pas parce qu'on a cette expérience-là qu'on a envie de la transmettre, il n'y a aucune obligation. Mais en l'occurrence, nous, les gens qu'on convoque, le profil souhaité, c'est quand même celui-là. C'est ouais. Effectivement.
C'est ouais. Mieux, tant qu'à faire, oui, d'avoir quelque c'est chose à partager, a... sinon.
Voilà.
Mais du coup, voilà, revenons quand même un peu à l'Iguane et à comment ça se passe concrètement. Et on n'est pas passé tout de suite par l'administratif, et c'est tant mieux.
Oh oui.
On a plutôt
parlé c'est pas passionnant, je
des artistes, ah c'est ça. Mais bon, quand même, effectivement, donc. Brièvement, enfin c'est comme vous le souhaitez. Comment ça se passe un café musique, de qui ça dépend, délégation de service public, une association qui s'appelle l'Iguane reprend la chose. Vous avez un cahier des charges de ce point de vue-là, très concrètement?
Oui, oui, évidemment, il y a des contraintes, notamment sur le nombre de concerts. On est tenu à une quarantaine de dates par an. Mm-hmm. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été négociées.
Ouais.
Le cahier des charges, en fait, il a été négocié. Bon, ce qui n'est pas négociable, c'est que, par exemple, les aménagements qu'on peut faire, on est tenu de respecter le lieu. Si là, on avait dû déplacer la scène, par exemple, ça aurait été fait l'objet d'une autre tractation.
Ah, oui,
voilà. Le bâtiment appartient à la ville du Havre. Sinon, pour le fonctionnement, je dirais que c'est relativement simple, même si de l'extérieur, ça peut paraître un peu zarbi. C'est une asso. Voilà. Mm-hmm. Donc, dans une asso, il y a un conseil d'administration. Donc là, on est 7 personnes. Donc, je ne reviens pas, tu en as parlé tout à l'heure. Tu as dit qu'il y avait là-dedans. Et puis, cette association-là porte, en tant que responsable légal, la délégation de service public. Mm-hmm. Délégation de service public, ce terme lourd qu'on véhicule depuis le début de l'émission, ça revient à dire que c'est une mission qui, normalement, incombe à la ville et que la ville, pour des raisons qui lui appartiennent, choisit de confier ce dossier-là, en gros, à une association qui a un budget pour travailler, des locaux mis à disposition, mais quand même le fameux cahier des charges qui concerne un nombre de concerts, je dirais une certaine qualité, un respect d'un certain nombre de législations.
Oui, quand même.
Voilà, en vigueur. T'as déjà cité un ou deux aspects alors non négligeables. Bon, effectivement, il y a tout ça dans une délégation. C'est un pavé qui est énorme, qui est d'ailleurs public comme la délégation, c'est-à-dire qu'il est consultable sur Internet.
D'accord.
En résumé, si vous avez envie de savoir très précisément, vous allez sur le site de la mairie, tout est écrit et tout ce qui a été négocié est écrit. C'est des choses complètement publiques, donc n'importe quel avare peut aller le consulter.
Il fait 30 pages juste pour.
La question qui peut se poser, c'est. Enfin, en même temps, c'est moi qui la pose, donc.
Je suis
un peu en train de faire les questions et les réponses, donc ça, c'est un peu autre chose. C'est le fait. Est-ce que c'est judicieux que ce genre de lieu soit géré de cette façon-là? Bah, moi, j'ai quand même un certain nombre d'éléments de réponse, c'est que par les temps qui courent, les salles autonomes, dites autonomes, en dehors de bars. Je ne citerai pas chez Saïd ou pourquoi pas la Colpa et Audebar pour ne pas les citer.
Par mais, exemple, chez Saïd, l'Hermès.
Au bout d'un moment, il faut que tout le monde. Enfin, je pense que les gens comprennent que ces lieux-là, pour fonctionner, il y a deux solutions. Soit on est complètement privé et on vit avec les entrées, on vit avec les consommations, c'est-à-dire la bière qu'on vend, ou bien alors on a affaire à de l'argent public. Voilà. Et là, on est bien effectivement dans ce cadre-là. Tout le monde a le droit de réaliser que le contribuable à vrai de Seine-Maritime et de Normandie en général participe au financement de ces choses-là.
Bien sûr.
Voilà. Mais pour moi, c'est important que ça soit dit une bonne fois pour toutes. Après, on en pense qu'on en veut, mais c'est la réalité, c'est quand même ça. C'est qu'à un moment, ça, c'est des choses qui sont relativement récentes. L'État français, la région, le département, tout ce monde-là met du pognon. Alors après, ils ont leur raison politique de le faire. Ça, c'est pas à moi de répondre pour eux. Mais voilà, la délégation de service public signifie tout ça en même temps.
D'accord, mais justement, parce que en fait, une partie des réponses, mais les audinotes, notamment dans d'autres endroits de France, ne l'ont pas forcément sous les yeux. Et dans votre programme, avec les différents partenaires qui sont cités en bas de page, donc outre la ville du Havre, il y a aussi d'autres. Comment qu'on dit ?
D'autres subventionneurs ?
Voilà, merci.
Oui, il y a la région, il y a le département, il y a.
À raison de. C'est moindre par rapport à la ville.
La ville étant le principal partenaire financier, évidemment, puisque ce sont des locaux qui lui appartiennent, que c'est sur la ville du Havre. Après, les autres financeurs interviennent à hauteur de 10, entre 5 et 10 % du budget global de la structure. Mais cette notion de mission de service public, elle est importante. C'est-à-dire que c'est une responsabilité supplémentaire qu'on a aussi, c'est-à-dire de bien faire notre travail. Ça paraît déjà basique, mais c'est important. Et en plus, on a aussi cette responsabilité-là devant les Havrais qui payent des impôts et qui ont un droit de regard sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose. Après, on aura évidemment des gens qui ne seront pas d'accord avec la ligne qu'on aura choisie, mais on pourra l'expliquer. Et en tout cas, chaque denier qu'on utilise doit pouvoir être justifié et correctement justifié.
Bon, ce qui serait important de la part des Havrais, c'est d'y aller pour voir ce que c'est et d'avoir de critiquer.
Oui, bien sûr.
C'est un peu le sens à donner. Exactement, c'est le sens à donner à tout ça. Voilà.
Qu'ils le prouvent, s'ils veulent le savoir, où va leur argent et si leur passion.
Exactement, parce que c'est effectivement l'argent à tout le monde qui est là-dedans. C'est-à-dire le nôtre à tous.
Et est-ce que c'est possible, jouable, à la fois donc avec les contraintes et l'argent que vous avez comme ça dans cette délégation de service public, de faire jouer des artistes payés correctement sans que le public soit ruiné par les entrées et que vous-même, avec le boulot que vous faites, soyez salarié correctement ?
Bah ça c'est une question de choix, hein. C'est une option, c'est-à-dire que si c'est décidé, c'est possible, il y a un budget qui permet, il y a un nombre de dates imposées, mais après un budget, après c'est plus la partie à Philippe, c'est lui le directeur.
Ah oui, après
mais
tout.
En même temps, effectivement, ouais, la réponse à cette question, c'est oui, bien sûr, tout est question de choix, c'est un choix politique, ce que tu dis là. On décide de faire, si on a envie de faire passer des groupes en première partie et si on a envie de les payer, c'est possible, donc on peut le faire Absolument.
C'est un équilibre à trouver, c'est-à-dire qu'on a un budget, c'est à nous de le gérer au mieux, avec effectivement les axes de travail qu'on s'est fixé à la base. Mais c'est réalisable, enfin, il y a plein d'autres salles qui le réalisent, donc il n'y a aucune raison que nous on ne le réalise pas. Après, il faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire on a de l'argent public et donc on peut se permettre de faire des spectacles qui font 10 personnes. On a quand même besoin, évidemment, d'un turnover de public. Mmh. Et puis, pour pouvoir justement permettre à des jeunes groupes de venir sur la scène, d'être payés correctement. Et de, voilà. Donc, après, c'est juste où on met le curseur, où on met la limite qu'on se fixe par rapport à tel ou tel artiste qui pourrait venir pour des sommes importantes et qui pourrait drainer du public. Voilà, c'est quel...
Sur les choix artistiques et sur la gestion, on voit bien. Juste une question, j'avais dit qu'il y aurait forcément des... petits allers-retours, peut-être c'est le dernier, avec ce qui se passait avant. Qu'en est-il des recettes du bar, du lien entre le bar et les entrées, la gestion générale? Parce qu'il y a eu des choses qui avaient été reprochées aux gestionnaires précédents par rapport à ça.
Le bar est perçu comme un service supplémentaire qu'on apporte au concert, mais ce n'est pas l'activité principale du lieu. On est avant tout un lieu culturel et pas un bar. D'ailleurs, c'est vis-à-vis des gens qui tiennent un bar, c'est déjà respectueux. Parce qu'en plus, on a de l'argent public, donc on n'a pas à jouer sur leur terrain.
Pas une concurrence,
et
d'accord.
Puis en plus, on est un lieu culturel. Donc le bar est un appoint, un service supplémentaire pour créer de l'animation, une dynamique autour des concerts. Et
puis manquerait plus qu'il n'y en ait pas, si tu veux.
Voilà, exactement.
Mais ça, c'est toi qui le dis, Julie.
C'est que du shampoing mi-concert. Hein.
Ah, oh, merde. Déjà que bientôt, on n'aura plus le droit de fumer.
Oui, d'ailleurs,
on voulait t'en parler.
Dès le 19, c'est ça?
Ouais, ouais.
Oh putain. Ouais, ouais. On sera plus souvent dehors que non, c'est pas vrai, j'aime tellement la musique. Mais enfin, en tout cas, ça fait partie du même.
Ça concourt à la convivialité du lieu.
Attends, j'ai pas compris.
Au niveau des financements, ça fait partie de la même gestion.
C'est la même bourse.
Voilà.
Totalement.
C'est la
même
réponse
caisse,
que j'attendais.
C'était ça la question.
C'est la même bourse.
On a pensé monter un petit clandé, mais Philippe n'était pas d'accord. On l'a pas fait.
Chacun son métier.
Je ne sais pas si ça va nous faire une transition avec le groupe suivant. Oh, mais oui, bien sûr, c'est Crumble Line. Oh. That second chance. Did I plan that I saw my fall? Good God, what have I done? To put aside or watch great walls, portraits of former friends. I have no excuse, seems I believe it is. I'm a hero to stay warm for the queen with that drum doom to roam.
She wanders around the elegant old lodge nightly. Flaming red curls tumbling over piercing sky blue eyes as she glides soundlessly through the hallways and staircases. The thing is, she's dead. Yes, beautiful young woman that roamed this hall. We thought to be the flirtatious spirit of Rebecca. They claim her restless wrath has made her presence known here ever since. Cold inside, my heart's painted black. Yeah.
cette fois-ci, c'est vrai. Nous avons la parole et nous voulons signaler que le morceau de Crumbline qui avait été choisi s'appelle, attention, Rosewood Paradox. Oui, c'est ça.
Ça doit être
oui.
ça, ouais.
Ouais, je me suis pas gourée. Donc Crumbline, faut-il encore les présenter ?
Non,
non.
Eh bien, tant pis pour eux. Et pourtant, ils font un excellent rock'n'roll assez furieux et plus ou moins punk, avec un petit côté NoFX que personnellement j'adore. Je ne sais pas si vous aimez NoFX aussi. Moi, j'aime beaucoup NoFX, notamment pour une pochette qu'ils avaient fait avec un titre qui va fortement plaire à Ludo, qui s'appelait Licking Lamb. Quelque chose comme ça. Enfin, la pochette, en tout cas, magnifique et dessinée, représentait un 69 entre un fermier et sa brebis.
C'est magnifique.
C'est magnifique, oui. Nous, c'est... Je te conseille.
C'est très, très beau. Je suppose qu'elle sera bientôt sur le site. C'est n'y est déjà.
Ah, elle n'y est pas encore, mais à ta demande, elle pourrait y être. Je pense qu'elle plaira.
J'insiste.
À notre ami qui nous a contacté récemment et qui s'appelle Tempérament de Feu. Parce que Ludo a des fans, hein. Ça y est, c'est parti. Le cinéma
bis. Pas du tout. Il s'agit simplement d'informations. Et en tant que média, Radio Apple Pie se doit de répondre à toute personne qui désire contacter Tinto Brass.
D'accord. Donc, enfin, en tout cas, je ne suis pas sûre du titre de l'album. C'est peut-être pas Licking Lamb. C'est peut-être. Enfin, faire un truc avec une brebis, en tout cas. Et voilà.
D'accord.
Bon. Je ne sais pas si Crumbline, d'ailleurs, font des trucs avec des brebis.
On leur posera la question. Ouais. Bah, ils répètent au SEM, donc je vais y aller plus souvent maintenant que tu parles de ça.
Donc, Anne-Lise ici présente, qui est une de nos fidèles auditrices dans le bar de l'Apple Pie, où parfois, apparemment, on n'entend pas toujours tout, visiblement, malgré l'excellente sonorisation des lieux. Poser une question à laquelle on avait déjà répondu, enfin vous en tout cas, et une à laquelle vous n'aviez pas encore répondu. Est-ce que ça a été difficile de choisir ces jolis noms de Ligouane pour l'association et Cabaret Électrique pour le lieu lui-même ?
Ah oui, ah oui. C'est-à-dire que, bon, c'est difficile de trouver un nom pour un groupe, c'est toujours difficile, ce genre de choses. Mais en plus de ça, on était quand même nombreux sur l'affaire, donc il y avait des gens, nous tous, là, de l'assaut Ligouane. Bon, il a fallu trouver le nom Ligouane, ça n'a pas été le plus dur. Mais pour ce nom-là, on avait fait appel à un peu à tout le monde, c'est-à-dire que par Internet interposé, on a dit à tous les gens, envoyez-nous vos idées. Ouais. Voilà.
On avait passé des listes, effectivement.
Ah oui, on avait quand même, je ne sais pas, à un moment...
8 pages.
Ouais, 8 pages, peut-être 150.
Ah, d'accord.
Donc forcément 150 noms, de l'autre côté 10, 12, 14 personnes, parce que toute l'équipe du cabaret n'est pas là, mais tout le monde s'y est mis. Alors moi j'aime bien celui-là, moi non, ça c'est trop comme ça, ça c'est très compliqué. Le cabaret électrique, c'est venu au départ du Festival West Park, où il y avait
l'excellent groupe
Nervous Cabaret.
Mais oui.
Et ce soir-là, je ne sais pas, l'inspiration nous est venue avec ma compagne Nat. Et à un moment, on s'est dit, ça, c'est un super nom, ça. Comme, c'est un super nom de groupe.
Enfin, ah oui.
Moi, j'ai trouvé que Nervous Cabaret, en plus, c'est musicalement, c'est vraiment ça, quoi. Et là, paf, il y a eu une petite étincelle. On s'est dit, on ne va pas appeler ça
c'est
Nervous Cabaret, ça existe déjà. La prof, on vient de voir le groupe, mais il y a quelque chose de bien là-dedans. Et puis, le chemin, chemin faisant, à un moment, ça a été mis sur la table. Alors, ce nom a été rejeté, repris, gardé. Alors, on parle des miracles de la démocratie, des débats houleux, voire...
Un 49-3, enfin, des gens...
Voilà, ça a été très terrible. Donc, ouais, ça c'est vraiment dur, quoi. Vraiment dur. Je pense qu'on est arrivé à un consensus. Un consensus, c'est pas un truc très excitant.
C'est
on
pas
est
très...
bien d'accord.
Oh, si, oh, tu mens. C'est pas mais... très poli, oh, moi, j'allais
bon.
Dire.
Oui, bon, forcément,
enfin, ouais,
oui.
Quoi que non, enfin, ouais. Ça rejoint un petit peu l'album de NoFX dont je parlais précédemment.
Un consensus de brebis.
Le consensus de brebis, lui, est excitant, on a bien compris.
D'accord.
Mais le consensus sur le nom, c'est autre chose. Quoi. Ça reste platonique, donc c'est pas pareil. Non, très sérieusement, ouais, ça a été vraiment difficile. Ça a été à l'arrache. Puis on a un peu craqué. On commençait à péter les plombs un matin. Il a dit. Parce que de toute façon, il fallait la com, il fallait l'identité du lieu très rapidement. Et il a fallu trancher. On a choisi ce nom-là. Et la déco qui est en train de se faire a été déclinée. Je pense avec brio, enfin c'est pas encore tout à fait fini, mais tiens compte de ça. Et je pense qu'on a réussi quelque chose.
Pas avec
Librio
parce qu'il est mort, c'est ça.
Pas avec Librio, on aurait bien aimé d'ailleurs, mais je porte d'ailleurs un toast à Librio, mais c'était pas le sens de ta question. Non. Ça veut dire que cabaret électrique, on voulait que ça soit symbolisé par un lieu, donc cabaret c'est bien. Cabaret c'est bien. Cabaret électrique, bon, on dirait elle était facile,
c'est mieux.
Mais c'est encore mieux, voilà. Alors, j'anticipe tout de suite parce qu'il y a eu des questions. On a eu des questions, nous. Pourquoi électrique avec un C ? Alors, c'est vrai que c'est un peu déconcertant. Alors, on pourrait dire qu'on est un petit peu radin. Donc, au niveau de la com, ça fait des lettres en moins à mettre.
C'est vrai.
QE. Non, simplement, bon, voilà, c'est comme ça. Connotation anglo-saxonne, parce que notre culture l'est. Voilà, si c'est une réponse, je ne sais pas si elle est satisfaisante, mais c'en est une possible.
Eh bien, écoute, j'avais une réponse moi-même, parce que si tu fais les questions, je viens faire les réponses.
Ça... Bon, d'accord, Juliette.
Bon, alors, mais momentanément, hein, je pensais que ça pouvait faire à la fois cabaret, parce que c'est en français, bon, c'est un lieu, c'est convivial, etc. Cabaret, on va dire, c'est international aussi, ville commune, bienvenue, welcome, bon, d'accord. Mais pour la chanson française, etc. Et électrique pour le côté rock and roll de Le Havre, qui n'est pas si loin de l'Angleterre. Je vais trop loin, peut-être.
Non, c'est très bien. C'est très bien. Une espèce de fusion.
Voilà, entre la tradition et le côté musique amplifiée, musique actuelle, du côté électrique.
Ce qui veut dire que peut-être vous envisagez du partenariat aussi avec l'Angleterre, comme il y avait une époque entre... Souvent avec la ville du Havre et
ça fait partie des choses qui peuvent se faire. Il y a d'ailleurs des associations qui essayent aussi de tisser des liens entre les deux côtés de la Manche. Donc pourquoi pas être effectivement réceptacle de cette envie de partager avec nos amis anglais.
Pas mal. Du coup, Alors justement, je voulais vous demander si vous avez prévu et déjà pris des contacts avec différents activistes associatifs ou non de la ville du Havre pour co-organiser des concerts, pour je sais pas, prendre leurs suggestions.
Ça fait partie de la volonté d'ouverture du lieu. Le lieu est aussi soutenu par le secteur associatif. En tout cas, dans la volonté d'un renouvellement, il y avait aussi le secteur associatif qui s'y était engagé. Donc il est normal qu'on renvoie l'ascenseur au secteur associatif. Donc il y a un certain nombre d'associations qui ont déjà pris contact avec nous et avec lesquelles on va travailler. Sur cette première programmation, il y a des partenariats qui sont engagés avec une association de métal, par exemple, l'association Metal News, qui organisait déjà des choses sur Le Havre et sur Saint-Romain. Il y a aussi, après, sur des associations plus institutionnelles comme le JUPO, un partenariat aussi, avec la fac aussi. Donc voilà, il y a déjà
des choses. Oui, le JUPO pour la soirée à Bianco qui ne fait pas
voilà,
partie.
C'est celle qui ne fait pas partie de l'ouverture. Donc il y a déjà des choses qui sont engagées. Puis je pense qu'évidemment, à l'avenir, il y en aura d'autres qui vont s'engager avec d'autres associations au fil du temps. Voilà, on est aussi preneur de. On ne prétend pas avoir la science infuse, donc on a aussi besoin de s'enrichir de l'expérience, des connaissances des autres. Voilà. Et c'est pour nous perçu comme un enrichissement supplémentaire et une mise en avant du lieu de pouvoir travailler avec ce secteur associatif.
Pas mal. Donc, avec le fait que cette question je l'ai posée depuis le début, et puis bon, on sait ce que c'est. Vous sentez-vous extrêmement attendu au tournant? Bon, d'un côté, je suppose que oui, parce que... vu voilà, ce qui s'est passé avant. On a parlé de pression, non, vous ne l'avez pas, vous êtes jeune, dynamique, et plein de fougue, large d'épaule et tout ça, on the road again. Mais donc, en vrac, forcément, on va vous attendre au tournant, on va dire ah bah, si c'était tout ça pour faire pas mieux. Comment éviter dans la programmation le copinage? Comment faire plus rock et qu'est-ce que ça peut encore vouloir dire au Havre en 2007? Ah, voilà quoi. Il y a un petit peu l'autoroute que je vous dessine pour répondre.
Attendu au tournant, ouais, parce que moi personnellement, si j'étais pendant l'affaire, j'attendrais au tournant ce nouveau projet-là. Franchement, je dirais.
Mais sans malveillance.
Ah, absolument, absolument. Mais c'est complètement normal que le public soit en attente de quelque chose de mieux, parce que c'est ça l'idée quand même, que ça soit mieux, qu'on y pense des bonnes soirées, parce que c'est quand même ça, il est que question de plaisir dans cette histoire-là, de recherche de plaisir. Peut-être que j'en reviens à ton histoire. Non, j'en reviens pas. Je n'y reviens pas. De plaisir par la musique,
entre autres.
Non, mais très clairement, on a tous envie de passer des bonnes soirées, voir des bons concerts et terminer tranquille entre potes. Pour commencer, c'est quand même un préalable important. Il faut déjà réussir ça, ce qui n'est pas forcément évident. Donc nous, on essaye à notre idée de mettre. On fait un peu comme pour nous pour l'instant.
Oui.
Alors, est-ce que c'est une bonne idée de faire comme pour nous? J'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, on peut pas faire autrement que d'essayer au mieux de dire, bah nous, on aimerait bien un soir de concert avoir ça, ça et ça. Donc on fait ça. Et puis on essaie de tenir compte aussi des choses qu'on nous a dit, parce qu'on nous en dit plein. Hein.
Oui, j'imagine.
Il y a des gens qui nous ont dit plein de choses. Il y a eu un soir une réunion publique, c'était bien. On a eu beaucoup de monde. C'était vivant. Tout le monde a dit, enfin, plein de gens ont dit ce qu'ils pensaient, super. C'est le principe. Sur Internet, on a eu un max aussi de retours. Ouais. Moins, c'est vrai, c'est moins ces derniers temps, mais dans les mois qui ont précédé, il y a des gens qui se sont vraiment lâchés. Ouais. Vraiment. Donc, les limites de tout ça, c'est les limites un peu de la démocratie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi de vouloir satisfaire tout le monde?
Vous n'êtes pas royaliste, je
absolument
vois bien.
Pas, absolument pas, du tout, du tout, du tout. Donc, forcément, de toute façon, il y a toujours des gens qui ne s'y retrouveront pas. Et on en est bien désolé d'avance, mais on fera de notre mieux. Et puis voilà.
D'accord. Alors bon, hop, en passant par le côté électrique et puis votre symbole qui est celui de panneau de danger EDF, je pense, non, d'un homme un peu terrassé, voilà, par un
des éclairs, des, hein, la foudre,
des charges, oui, voilà,
des charges électriques.
Ouais. Donc rock. Mm-hmm. Donc, un certain nombre d'entre nous se sentaient obligés, enfin, en tout cas, oui, ils devaient se rendre, bien ma foi, à Paris, à Évreux, à Lille, à Rennes, que sais-je, pour aller voir des concerts de rock'n'roll. Il me semble qu'il y a un petit Larsen. Est-ce que désormais, on pourra dire que les Havrais et les Havraises soucieux de voir des vrais concerts de rock pourront aller au cabaret électrique?
Ah, bah, on espère bien. On espère bien que, effectivement, dans cette ville, les gens, enfin, un certain nombre de gens, en tout cas, pourront avoir envie de sortir et de trouver un peu ce qu'ils cherchent, quoi, ce genre de concert. Je vois très bien à quoi tu fais allusion. Donc, pour aller moi-même voir des concerts à l'extérieur.
Voilà, bah oui.
De toute façon, je pense qu'il faut être réaliste aussi. C'est quand même un petit lieu. C'est un petit lieu qui est très bien. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, d'avoir 400-500 places pour accueillir du monde. Mais il ne faut pas rêver, quoi. Il y a des choses qu'on n'ira pas voir, qu'on ne pourra pas faire là. Mais en tout cas, dans les limites de cette capacité-là, on fera.
Très concrètement, Paca, je crois que pas mal d'entre nous qui sommes là autour des micros et puis dans le bar de l'Apple Pie ce soir, on était allés ensemble pendant ce fabuleux festival des bulots, festival de BD qui, hélas, n'a pas eu de suite, voir les Belles Raises à l'abordage, qui était vraiment un petit lieu. Voilà. C'était un excellent concert. Les Belles Raises, depuis, ont un succès qui ne se dément pas. Et je crois que vous les aviez d'ailleurs programmés, si vous aviez pu ouvrir plus tôt.
C'était eux qui devaient faire la première soirée. Mais bon, pour des raisons de calendrier, on a pris du retard, donc plus de Belles Raises, ils viendront plus tard.
Voilà, ils viendront plus tard, parce que, oui, de toute façon, c'est des gens qui continuent à tourner. Bon, ouais. Cette tournée-là, elle est loupée, mais ça pas se refera. Problème. Non, mais voilà, c'est dans l'idée, si tu veux. Effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un lieu gigantissime. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on a pu voir à Paris, à la Maroquinerie, ou, bon, ou même dans le petit lieu de l'abordage, qui étaient des concerts excellents, que malheureusement, le public havrais avait des difficultés à pouvoir rencontrer. Et ce qui m'amène quand même, au-delà de votre volonté, dont je ne doute pas, mais au travail avec les tourneurs, est-ce que le Havre peut justement arriver à avoir cette place maintenant dans l'agenda des tourneurs?
Il faut un petit peu de temps pour reconquérir la confiance des tourneurs. C'est-à-dire que là, évidemment, les tourneurs étaient habitués à une certaine ligne artistique sur le lieu. Donc il faut simplement leur faire des signes et des appels du pied en disant si vous avez quelques dates bien rock'n'roll et bien senti, n'hésitez pas à nous contacter. Donc c'est un travail de réseau, un travail de contact qu'il va falloir refaire, recréer, et pour qu'à un moment donné, on puisse arriver à l'idée qu'on se fait de la programmation, quoi. Et ce que décrivait Paca tout à l'heure.
Ce qui forcément nous amène aussi à cette question, vous n'avez toujours pas votre programmatrice ou programmateur attitré, ou en exclusivité sur Radio Apple Pie, vous avez un nom à nous donner?
Non.
Ouais. Eh bien, il y a des gens à qui ça fait plaisir que le suspense soit maintenu un petit peu plus.
En ce moment, on rencontre des gens.
D'accord.
En clair, on embauche. Il y a une ou deux personnes qui semblent intéressantes. Bon, c'est pas facile, c'est un peu le nerf de la guerre, le programmateur.
Oui.
C'est pas monsieur le directeur que je... C'est pas monsieur le directeur qui va me dire le contraire. Donc, c'est pas facile. Faut trouver quelqu'un qui a du goût, quelqu'un qui a du métier, qui est déjà bien connecté si possible dans le réseau, qui a un bon carnet d'adresses, enfin voilà, qui est en clair, qui sait faire le boulot, quoi. Et qui en plus qui a l'esprit qu'on souhaiterait donner à la maison. Donc ça fait quand même pas mal de critères, faut prendre du temps. Non, on l'a toujours pas trouvé. Peut-être qu'on l'a trouvé.
Philippe n'a pas tellement les yeux cernés, pourtant 100 entretiens d'embauche par jour, ça peut être facile tout le
temps.
Non,
mais on veut dénicher la bête rare, donc voilà, on va
prendre la brebis à cinq pattes.
Voilà, c'est
exactement
ça. on va prendre tout le temps qu'il faut, mais je pense que sur ce point-là, on peut pas se planter. Donc ça fait partie des points sur lesquels il nous faut être précis sur ce qu'on veut et prendre le temps de trouver la bonne personne, parce que c'est un point, c'est un maillon essentiel de, du projet, et qu'on peut pas prendre n'importe qui sous prétexte qu'on a besoin de quelqu'un.
Voilà, donc ça veut dire que le programmateur ou la programmatrice, ça sera vraiment le ou la décideuse. En l'occurrence, enfin, vous allez vous consulter évidemment, mais ça ne peut pas être quelqu'un, enfin je veux dire un employé clairement de l'association avec des directives. C'est quelqu'un qui prendra des initiatives.
Comme toute personne qui sera dans l'équipe, l'idée aussi, c'est pas une équipe avec un grand Manitou et un CA au-dessus qui prend des décisions, c'est un travail d'équipe. Donc le programmateur devra se fondre dans ce travail d'équipe. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est qu'il apporte sa personnalité, sa culture, si possible propre, évidemment. Mais y aura une concertation avec l'ensemble de l'équipe. Mais évidemment... si on recrute un programmateur, c'est pas pour le censurer toutes les deux minutes et lui dire ben non, finalement on préfère autre chose. Ouais. Donc voilà. Donc après, c'est juste une question de confiance et de dialogue qu'on a avec lui pour mettre en place la ligne artistique qu'on a envie pour le lieu, quoi.
On le lui souhaite. Et en tout cas, donc, ce que vous souhaitez, c'est aussi que le Havre, en plus d'être un estuaire, soit pas une espèce d'entonnoir justement un peu perdu entre ce qui peut se passer en amont et en aval. Malheureux, ça, comme métaphore, mais enfin...
Tu voulais dire le trou du cul du monde, quoi.
Voilà, en gros.
Voilà. Ça, de toute façon, géographiquement, on n'y peut pas grand-chose. Mais si, effectivement, on peut faire circuler un peu des groupes qui viennent de tous les côtés de la mer, oui, bien sûr. Super.
D'accord. Plus sérieusement, pour en terminer avec la programmation, Pascal me posait cette question extrêmement judicieuse pendant un des morceaux. Là, dans votre programme, elle est établie pour un trimestre.
Oui, jusqu'à fin mars.
Je suppose que vous avez déjà avancé un petit peu plus que ça.
Pas plus que ça.
Non. D'accord.
Pas okay. Plus que ça. Le fait qu'il y ait une vacance de programmateur explique aussi le fait qu'on n'ait pas avancé aussi vite, puisque je suis obligé de faire la transition en attendant d'avoir quelqu'un. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Il y a
bon, ça va, les double shots, vous avez une deuxième chance.
Mais, ce que je voudrais savoir, c'est...
Il y a un soin qui braille.
Votre programmation sera uniquement musicale ?
Pour l'instant, elle sera uniquement musicale. Ça ne veut pas dire qu'il soit associé à la musique d'autres formes d'art. Ah. Okay. Mais évidemment, l'objet principal sera musical.
Musical.
Bon, on va écouter Lojo. Ça va nous donner un petit temps de réflexion par rapport à tout ça.
Et tu t'en vas, mon amour lui ne change pas. Tu viens richesse et tu t'en vas, mon amour lui ne change pas. Ton nom est le plus beau quand tu le donnes en partage, comme un trésor sans fin. Ton nom est pollen et ombre, ton nom sacre de l'instant. Moi l'enfant qui te fane, n'achète pas, l'amour lui ne se vend pas. La vérité se cache sous n'importe quelle attitude. Un soir de bal sous tonnelle, dans un cabaret de brousse.
Tu viens de chasse et tu t'en vas,
mon amour lui ne change pas. Dans la rue Violette, des petits démons de leur ombre, du grand délit du silence, du crime de n'avoir pas dit. Non, il n'y a rien que je doive, rien ne m'oblige ni me retient.
deviens richesse et tu t'en vas. Mon amour, lui, ne change pas.
Lojo, mince, le titre du morceau, je ne m'en souviens plus, mais Philippe va nous le dire forcément.
Absolument. Tu viens richesse.
Voilà, alors le quel jour il passe, on ne vous le dira pas, parce qu'on ne va pas ouvrir le programme toutes les 5 secondes.
Si, 23 janvier.
Bien joué. Voilà, impeccable. Ouais. On en profite pour faire un petit hommage et un bisou surtout à Vincent Hanon, qui est un bon copain, qui est un excellent activiste du rock'n'roll depuis... Oula, 1848. Voilà, rock critique à rock and folk, fabuleux animateur sur Radio Aligre et qui adore Lojo, figurez-vous. Étonnant, non? Bah voilà, après tout, bon, moi j'aime Magie de Tierfille, on fait des petits échanges comme ça. Ah bah moi j'aime bien Lojo, chanson française. Bon, en général, il est plus dans le brutal, hein, faut quand même dire ce qu'il est, mais bon. Donc Lojo, vous l'avez mis dans la playlist et dans votre programmation, je suppose que vous savez. Comme on dit dans les lieux culturels et les grands médias, défendre cet artiste.
Absolument. Lojo est plus connu à l'étranger d'ailleurs qu'en France. Ah, il tourne énormément en Angleterre. Il a participé notamment à plusieurs festivals, dont celui de Peter Gabriel d'ailleurs. Et puis un festival aussi qui a lieu dans le Sahara. Donc c'est ce qu'on pourrait qualifier de la chanson française du monde. C'est-à-dire que ça défend une certaine idée de la chanson française. Il y a des textes, les textes de Denis Péan sont des textes très bien écrits, très bien dits, très bien chantés. Et puis à côté de ça, il y a une musicalité du monde avec des influences orientales, du jazz, voilà. Et c'est, moi j'aime bien. Enfin, c'est un groupe qui provoque de l'émotion. Je les ai vus dans des grandes salles et ils sont capables de jouer dans des petits lieux et provoquer l'émotion et de jouer dans des grandes salles et aussi provoquer l'émotion. Sur une salle de 3000, ils arrivent à obtenir le silence, qui est quand même pas forcément évident. C'était à Bourges, j'étais passé avant un groupe qui avait plutôt tendance à bouger et à meuter les foules, et eux, ils ont ramené un calme et ils ont captivé tout ce petit monde. Donc voilà, c'est un groupe qui a une puissance scénique importante et qui, moi, je trouve très joli.
Même dans l'écoute du disque sans les avoir vus sur scène, effectivement, ça dégage une ambiance vraiment intéressante, particulière, quoi. Avant de continuer sur votre programmation, une fois de plus, forcément, c'est quand même l'essentiel de la soirée, on nous a fait passer un petit papier vachement joli, puisqu'on parlait de la situation, non pas géopolitique, mais géographique tout court du Havre. Un auditeur dans le bar de l'Apple Pie nous a écrit sur un papier que la situation du Havre, c'est une béance, écrit B-A-I-E-ANCE, A-N-S-E. Et ça, c'est très joli, bravo, hein, bravo, bravo. Donc cette béance, vous allez essayer à la fois,
on
si je
dedans.
Puis me permettre, voilà, c'est ça, de la laisser ouverte et de la combler, ce qui n'est pas toujours facile. Pour en venir plus sérieusement à ce qui est de la part de diverses expressions musicales, rock on l'a dit, chanson française on le voit, bon précédemment en tout cas c'est ce qui était un peu écrit, un peu fait, le blues, le blues le blues continuera-t-il à avoir sa place au cabaret électrique?
Oui, certainement, comme tous les styles de musique liés aux musiques actuelles. Après, il n'y en aura pas tous les 4 matins, quoi. Mais ça fait partie des choses qui sont prévues, éventuellement sur le prochain trimestre, une date blues pour les amateurs du genre.
Non, parce qu'en fait, forcément que dans l'équipe qui vous précédait, dans la gestion du lieu qui s'appelait l'Agora pendant quelques années, ils avaient, je suppose, des adhérents, des abonnés, enfin je sais pas comment ça se passe, un public plus ou moins fidélisé. Et comment, au-delà de fichiers perdus, pas transmis ou je ne sais pas trop quoi, enfin bon, comment vous pouvez retomber sur vos pattes par rapport à ça, vous relancer les gens qui avaient l'habitude de venir dans ce lieu pour leur expliquer ce que vous comptez faire
Bah, l'idée, c'est d'essayer de conserver le public qui venait et puis d'en attirer un autre. Donc voilà. Après, comme on le disait tout à l'heure, on fera certainement pas plaisir à tout le monde. Donc il y aura dans ceux qui fréquentaient le lieu auparavant des gens qui seront déçus et qui viendront plus, et puis même des gens qui venaient pas, qui continueront pas à venir. Donc voilà,
on les salue hein, d'un geste.
On sait qu'on
très peu radiophonique,
qu'on fera pas l'unanimité, mais à la limite c'est même plutôt positif de pas totalement faire l'unanimité. Ça veut dire qu'on affirme des choix et qu'on n'est pas tiède non plus là sur le coup.
Dans cette idée, donc, continuité ou changement, je sais que vous n'êtes pas dans la rupture tranquille, mais est-ce que vous avez fait des modifications au niveau des tarifs d'entrée, de l'accès au public au concert? Comment ça se passe?
Alors, il faut savoir que là, ça renvoie malheureusement à quelque chose de pas très poétique, c'est l'histoire de la délégation de services publics. Il y a à peu près, on nous a demandé de donner à peu près 12 tarifs différents.
Wow.
Bon, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas extrêmement intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en matière de politique tarifaire, ce qu'on a voulu, c'est que faire des concerts qui ne sont pas trop chers, dans la mesure du raisonnable, que ça soit accessible à ceux qui peuvent. Voilà, je pense que ça résume un peu sur les tarifs, il y aurait plein de choses à dire, mais l'idée, c'est ça, quoi. C'est que on veut pas que les concerts soient trop cher. Bon, en même temps, il y a toujours un prix d'entrée, donc les concerts sont payants. Et des concerts, ils sont pas tous payants d'ailleurs. Il y aura un certain nombre de concerts gratuits. Bah, on espère que ces tarifs-là seront satisfaisants pour la majorité des gens qui veulent rentrer. Je prends pas un grand risque en disant ça.
Effectivement.
Effectivement, c'est comme ça qu'on l'a pensé en tout cas.
Dans le genre de phrase en bois. Non, je sais que tu ne penses pas comme ça, mais.
Après, c'est d'offrir une palette de tarifs qui permettent à chacun de pouvoir à un moment donné. Venir sur le type de concert qui lui plaise, c'est-à-dire que sur le même style de concert, on peut avoir sur une saison ou un trimestre des concerts qui soient en entrée libre, des concerts qui soient très découvertes où le prix va être aux alentours de entre 6 et 8 euros, et puis d'autres où on va plutôt avoir des têtes d'affiche, et là effectivement les prix seront plutôt aux alentours des 15 euros. L'idée c'est ça, c'est que sur un même style de musique, il puisse y avoir différentes propositions à différents tarifs et permettre à chacun de pouvoir en profiter en fonction de leurs moyens. Et voilà. L'intérêt quand même globalement, c'est de pouvoir permettre aux gens de revenir régulièrement dans le lieu. Donc si on fait des prix d'entrée au-dessus de 15 euros, ça devient déjà tout de suite beaucoup plus compliqué. Quoi. Donc,
voilà. Non, franchement, sans vous serrer les pompes, en regardant quand même attentivement votre programme et les tarifs d'entrée, bon, j'ai trouvé que c'était correct et abordable, avec le fait que, alors, des choses que j'ai entendues, hein, j'en sais rien, vous en pensez de ça, d'aucuns ici ont déjà lancé l'idée que pour tous les lieux, il peut y avoir des prix qui peuvent sembler chers pour certains, ça, ceux qui peuvent le faire, les salariés, bon, quand on dit salariés, on n'a pas tout dit, parce qu'évidemment, il y a de plus en plus, comme on sait, de travailleurs pauvres. Il y en a même qui couchent sous les fameuses tentes au Quai de Gemap ou ailleurs. Mais bon, en tout cas, pour les gens qui arrivent à bien gagner leur vie et qui sont prêts à payer parce qu'ils aiment la musique et qui veulent soutenir les artistes, parce que c'est quand même important aussi. On ne peut pas brader les concerts, sinon que deviennent les musiciens en question. Mais de faire justement peut-être des tarifs, je suppose que vous avez pensé à tout ça, hein, en péréquation de vos tarifs, mais voilà... éventuellement ce qui peut paraître élevé, mais pour des gens qui peuvent se le permettre, et le plus bas possible pour vraiment les tranches de chômeurs, je sais pas, d'étudiants.
Il y a des tarifs réduits, l'écart est peu important malheureusement, on aurait aimé qu'il soit un peu plus important, mais
voilà,
le cadre de la DSP nous obligeait aussi à respecter une certaine régularité dans les tarifs qu'on proposait.
D'accord.
Et après, voilà, il y aura aussi des temps en entrée libre qui permettront aux gens de pouvoir venir voir des concerts sans rien débourser. Et puis après, on trouvera des formules aussi qui nous permettront de réduire encore les coûts à travers des formules d'abonnement qui vont permettre peut-être de réduire encore un peu plus les coûts d'entrée, quoi.
Sans plomber et sans faire sans arrêt, allez, on va dire que c'est le dernier retour en arrière. Est-ce qu'il faudra produire à l'entrée un nombre de justificatifs énorme pour démontrer qu'on est chômeur ou précaire à l'entrée de cabaret électrique?
Un seul justificatif suffira.
C'est bien de le dire. Une dernière question sur l'accueil qui, moi, m'a, notamment les dernières années de l'Agora, énormément gonflé. Enfin, avec le fait que maintenant, on ne pourra plus fumer de clopes. C'est un sujet qui sera forcément évacué. Il y avait des videurs pas toujours très avenants, il y avait des fouilles au corps un petit peu désagréables, y compris des choses illégales comme regarder à l'intérieur des paquets de cigarettes des gens. Je suppose que ça, c'est du passé.
Pas du tout, ce sera bien pire qu'avant, parce qu'on le fera de nous-mêmes, parce qu'il y en a marre. Non, évidemment, on a été les premiers à gueuler là-dessus, et tu disais les derniers temps, moi c'était plutôt dans les premiers temps, la première fois que je suis allé là-bas, bon, on m'a fouillé mon paquet de clopes, effectivement. Le service d'ordre, il sera là, mais effectivement, il y aura des consignes par rapport à l'accueil du public.
Ouais, non, évidemment. Mais, franchement, évidemment. Je crois que c'est très important. Bah, oui, c'est vrai que c'est une des choses, moi, qui m'a toujours choqué, c'est que au-delà. De ce qui peut se passer, du lieu, de l'acoustique, de la programmation évidemment qui est importante, mais quand tu arrives dans un endroit et que tout de suite on te regarde de travers et voilà quoi. Bon.
L'idée c'est qu'il soit transparent.
Oh, oh là là, un beau videur transparent, bah dites-moi.
Bon, de toute façon, les paquets de clopes, le problème ne se pose plus. Ma chère Juliette.
Oui, c'est vrai.
Ah, désolé.
Donc. Ce coup-ci, le morceau que vous avez choisi qui vient, je vais vous demander de le présenter maintenant, puisque juste après, Pascal va prendre la parole pour sa seconde chronique de la soirée de bande dessinée.
Et ben on disait tout à l'heure qu'on mettait en avant les groupes locaux. Bah, voilà un exemple, c'est Draft, qui a sorti un album il y a quelques mois, qui est un groupe de Bolbec, qui tourne déjà depuis un petit bout de temps sur la scène locale, et donc à qui on avait envie d'offrir un moment sur cette scène-là. Donc, ce sera une soirée avec trois groupes, donc un groupe bolbéquet, et sur l'invitation d'ailleurs de Draft, un groupe de Caen qui s'appelle Amanda Woodward, et un groupe de Lille, qui s'appelle Tang, et qui représente un style musical qui s'appelle l'émocore ou le screamcore. Enfin voilà, donc.
Une fois de plus, franchement, tu ne pouvais pas le deviner, tu me fais le perchman parce que. Les mots corps, je voulais en parler, pour rendre hommage à un groupe qu'on adore et dont on a déjà passé des morceaux ici, qui s'appelle Horror Show Destruction, et dont font partie deux membres de Draft sur Radio Apple Pie.
Down!
10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Draft, le groupe qui interprète le mieux les textes de Léo Lamarche. Et ça, c'est assez incroyable quand même. Et puisqu'on parle de polar, bah écoute, la parole est à toi, Pascal, pour parler de bande dessinée.
Oui, tout à fait. Et ce soir, ay caramba, ça sent la pizza et la sueur des catcheurs mexicains. Tout d'abord, oui, ça te fait plaisir, ça, hein, Ludo. Voilà, je sens bien que t'es excité.
J'ai oublié ma cagoule.
Oui, c'est dommage d'ailleurs.
Bon, sortez c'est couvert, bête. Mais quand même pas à ce point-là.
Tu vas voir.
Bon, bon, là,
ouais. Il viendra avec. Oh, chouette. Donc, avec d'abord Mutafukaz, tome 1, qui s'appelle Dark Meat City, du dessinateur Ron, chez Ankama Édition. Alors, Ron, bon, c'est un personnage qu'il faut un peu découvrir, parce qu'il est de 1999 à 2003, il a été directeur artistique chez Tish Timishman,
studio de création
Lillua, où il travaille sur des projets de pub pour les grosses enseignes, vachement intéressant, Warner Music ou Sony Music, pourquoi pas. C'est aussi à cette époque qu'il approfondit quand même son projet d'étudiant, donc Mutafukaz, un univers atypique qui est ancré dans ce qu'il aime lui, c'est-à-dire bon, l'ASF des années 50, la série Z, et puis le catch mexicain, bizarrement. En 2002, il réalise un court-métrage d'animation de 7 minutes, un trailer en fait de Mutafukaz qui s'est fait connaître dans grand nombre de festivals et notamment un festival de Sundance à Salt Lake City où il est nominé quand même pour le festival. Pas mal le gars. Et depuis 2004, il est membre du collectif Sans Perfi, là où il diversifie en fait c'est encore plus ses trucs puisque bon il fait des activités illustration pour différents magazines Max, Wad. Il fait de la photo et il fait du toy design. Ça, je ne connaissais pas. Tu vois, c'est toy design, c'est
leur play.
Et c'est vrai que les mecs, ils font des jouets en fait, par rapport à leur personnage. Et il a un personnage bon, qui a marché à fond. Ils font un petit jouet là-dessus. Et c'est un moyen de se faire connaître par rapport à ça. Mm-hmm. Et, apparemment, c'est très sympa.
Du dessin de gens qu'on trouve le obsessionnel compulsif, non ?
Peut-être bien. Bon. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais bon, c'est des petits personnages qui ils font eux-mêmes, et, qui trouvent quand même des fabriques pour faire en réel. C'est déjà pas mal quand même. Et donc, en janvier 2006, il rejoint donc le studio Ankama Édition pour une petite BD qui, au départ, il faisait lui-même sur son petit carnet en noir et blanc dans sa petite chambre d'étudiant. Bouhou, je pleure. Mais qui va devenir maintenant un projet de 3 albums. Et donc ce projet, Mutafukaz, vous me demandez ce que c'est exactement.
Oh là là, bah oui, on se le demande.
J'hésitais même à pousser un hurlement dans le micro parce que je ne t'entends point.
Moi non plus, j'étais en train de dire, putain, pourtant c'est la 101ème et pas la 100ème, mais on entend encore moins que la dernière fois des dons.
Donc Mutafukaz,
comment
ça veut dire Mutafukaz, en fait, c'est une discrétion de motherfucker en argot hispanique.
Et je vais juste dire un truc. Il paraît qu'il ne faut pas qu'on crie dans les micros parce que sinon, après, à l'équalisation des émissions, c'est super mauvais, le son général. Donc, on va juste demander à nos amis dans le bar. Anne, c'est toi qui fais la police du bruit. S'il vous plaît, chuchotez pendant la chronique de Pascal. Vas-y, mon Pascalou.
Donc, c'est en fait une digression de motherfucker en argot hispanique. Et motherfucker désigne les habitants de Dark Meat City. Dark Meat City, vous me direz, forcément, jouez à votre tête, qu'est-ce que c'est aussi ? Et Dark Meat City a été créé dans les années 66, enfin en 66, je cite, « La faille de San Andreas accouche du tremblement de terre le plus redouté de la côte ouest des États-Unis à Big One. Los Angeles et une partie de San Francisco disparaissent dans l'océan Pacifique. La Californie est ravagée ravagée et rebaptisée New California, une ville collée à la frontière mexicaine, Dark Meat City émerge bientôt et atteint en 2000 la population de 17 millions d'individus. Sa croissance hallucinante engendre vite pauvreté, insécurité et pollution. Ciel.
Comme dans le Paris de Sarkozy.
Voilà, propulsé dans le top 2013, des villes les plus dangereuses du monde, juste derrière Johannesburg et Mexico, Dark Meat City compte plus de 600 gangs violents qui opèrent sur tout son territoire. Des centaines d'immigrants entrent clandestinement tous les mois dans la ville et les méduses policières génétiquement modifiées du Rio Grande n'y changent rien. Donc, c'est dans cette ville, n'est-ce pas, chaude et...
mouette. Non.
Tiens, ça y était, dès qu'on arrête, ça se tait. C'était marrant.
c'est dans cette ville chaude et...
Et...
Et... Et what et
même pas.
Et dangereuse.
Et frappé comme une tequila. Que vivent nos deux héros, Angelino et Vince, deux petits personnages qui sont chômeurs, pratiquement, glandeurs un peu quand même, paumés. Et, oui, glandeurs. Glandeurs, c'est vrai qu'ils bon, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres gars, mais c'est pas non plus des flèches, quoi. Faut bien le dire. Et ils squattent dans une chope d'hôtel miteuse dans un quartier pauvre de Rios Rosas. Leurs journées sont hyper monotones. Ils se traînent entre zapping, matchs de catch mexicain. Petit boulot, effectivement, de temps en temps, des petits boulots foireux. Bon, livreur de pizza, il faut bien le dire. Et discussion métaphysique sous les étoiles. Ça, c'est plus intéressant déjà.
Ça, on sait faire aussi.
Voilà. Et tout d'un coup, un bête accident de scooter va plonger nos héros dans un tourbillon d'aventure infernale. D'où dépendra le sort de l'humanité.
Ah, carrément.
Et oui, ça rigole pas, hein, tu sais. Il y a des fois où le sort de deux pauvres petits gars devient très pesant,
c'est,
quand même.
C'est souvent au chômeur.
La preuve, regarde ces deux-là, finalement. Ce sont deux héros dont leur sort a dépendu de beaucoup d'emmerdes. Qui dépend peut-être de... Peut-être pas le sort de l'humanité, mais...
Pas loin,
quand même. Et donc, tout d'un coup, une chasse à l'homme s'organise entre des mystérieux hommes noirs... commando high-tech de services secrets, des gangs à tout va de toutes sortes, et aussi des catcheurs mexicains.
Ah bah voilà.
Quand même, fallait bien qu'ils viennent.
Toi, t'as fait un pari avec une copine, je veux dire catcheur mexicain 12 fois, ouais d'accord.
Et, non, repéré, Pascal. Et même les fameux machos. Machos qui sont des entités cosmiques issues de la matière noire de l'univers. Donc ça rigole plus du tout. Hein.
Je savais pas que les machos étaient ça.
Oui, tu savais pas. Ah bon ? Donc Muta Fuka, c'est un plat épicé, aussi épicé que le chili con carne et d'autres d'hommes, notre patron.
Voilà.
N'est-ce pas ?
Parce que nous avons un patron.
Une symbiose entre les comics américains, le manga et la BD européenne.
Les
catcheurs mexicains.
Ouais.
Mais alors, justement, comment sont-ils représentés, ces catcheurs mexicains ?
Eh ben, c'est comme, effectivement, avec des cagoules.
C'est-à-dire que t'as Santo, Blue Demon, ouais. Tron, etc.
Ouais, exactement. En fait, déjà, eux-mêmes, les héros, les deux héros, regardent énormément la télé. En fait, les catcheurs mexicains, les combattants de catch, la lucha libre, en fait, puisque bon, la ligue des catcheurs mexicains s'appelle la lucha libre.
Comment que tu pratiques bien la lucha libre.
Oh, bah attends, j'ai étudié le sujet, moi. Mais en fait, c'est un super hommage, effectivement, tout ce qui a été dit précédemment, l'ASF des années 50-60, hommage aussi à la quatrième dimension, où on voit apparaître notamment Ross Sterling, le présentateur et le créateur de la quatrième dimension, le fameux Sauton.
Twilight Zone.
Twilight Zone, yeah. Effectivement, in British. Donc on rentre vraiment dans la quatrième dimension. En fait, c'est vraiment une BD populaire, comme on les aime, hyper attirante, parce qu'il y a tout un tas de choses dedans. Intéressante, critique de la société quand même quelque part, américaine.
C'est la question que j'allais te poser, justement.
Oui, bien sûr.
Comme visiblement toute œuvre de gros consommateurs de culture populaire, est-ce que ça reste auto-centré et donc dans un univers clos, ou est-ce qu'il y a en parallèlement quand même une ouverture
Non, parce qu'il balance quand même des vagues sur le gouvernement assez intéressant.
Mais tu sais bien que dans toute chronique de Pascal, qu'elle soit de polar ou de BD, il y a des héros perdus, un gros bordel, des meurtres éventuellement, et une critique sociale.
Ben oui, généralement, c'est à peu près ça.
Je n'ai pas ces scrupules.
D'où j'espère que ces personnages, parce qu'ils s'y prêtent vraiment, il y en a un qui a une tête de billard, toute noire, l'autre qui a des cheveux un peu à la, comment, référence au Ghost Rider. Tu vois le personnage de Ghost Rider, qui va bientôt être adapté à l'écran.
Mais oui, complètement. Donc c'est-à-dire que c'est un crâne.
Un crâne.
Un crâne enflammé.
Voilà, tout à fait. Voilà, ce sont vraiment des personnages qui se prêtent à une culture populaire et éventuellement à être tagués sur tous les murs de la ville. J'espère qu'il y aura des tags partout bientôt de ces deux personnages. Il faut dire que, bon, effectivement, le design des personnages, de tous les personnages, se prête vraiment à, est issu de la culture populaire et des rues, et donc des tags, forcément. Et ça, c'est vachement bien. Ce qui fait que ça, je vous ai assonné tout d'un coup une prise Muta Fuka, ça y est, j'ai gueulé. Et à chaque fois, il le dit lui-même, tout le monde me dénigre le mot. Muta Fucas, donc pour l'instant, vous êtes à terre. Et l'arbitre va compter. Pendant ce tournoi, je vais vous parler d'un même univers qui s'appelle, d'une série qui s'appelle Lucha Libre, qui est parue chez les Humanos, qui est un concept intéressant aussi.
Tu sais que j'ai failli parler de Santo ce soir.
Oui,
là,
ça tombait bien, mais... c'est con que ça parle.
Au lieu de passer ta vie sur le trône, tu aurais pu me contacter.
Mais je savais pas, moi.
On aurait fait une spéciale avec des passerelles.
Voilà. Donc Lucha Libre, c'est une série aussi qui est parue vite fait chez qui commence chez Lizzie Mano. Il y a deux tomes de paru, il y a un troisième qui paraît bientôt, qui a un concept hyper intéressant aussi, qui est en fait cinq héros, pour dire super héros parce qu'on peut pas dire que c'est ça non plus, cinq types qui adorent le catch mexicain et qui se déguisent avec des cagoules.
Et il y a même pas des catcheuses.
Non, malheureusement ça devient un peu macho, faut bien le dire quand même quelque part. Et alors, ce qui est intéressant.
Petit aparté, si tu veux une catcheuse, tu peux regarder Santa Sangre d'Alejandro Jodorowsky, qui créa un personnage de catcheuse mexicaine, justement en réponse au personnage macho ultra virilisé dominant de Santo, et etc.
C'est chouette.
Ouais. Donc, en fait, c'est les personnages s'appellent The Luchadores 5. Et donc, ce sont 5 héros qui défendent la veuve et l'orphelin dans un...
ils sont pas obligés de l'écorcher.
C'est comme ça qu'ils disent en espagnol.
La veuve,
de là-bas.
La veuve et l'orphelin.
Si.
Et donc, ils défendent la veuve et l'orphelin dans un Los Angeles un peu chaotique. Donc, il y en a un qui s'appelle Gladiator, l'autre Docteur Pantera, Diabolo Loco, Red Demon, King Karateka. Et il faut bien dire qu'ils sont quand même assez grassouillets. Il y en a un qui habite chez sa mère, etc. C'est quand même un peu, bon, les anti-héros quand même.
Mais tous les gens qui habitent chez leur mère ne sont pas grassouillés.
Je n'en sais rien, j'y suis plus. Et donc, ces personnages donc, gravitent dans Los Angeles, un peu bizarre, parce que bon, il y a les personnages méchants qui attaquent tout le monde. Mais c'est atypique parce qu'il y a une espèce de dinosaure qui attaque les gens, il y a des loups-garous, il y a une bande qui s'appelle les docteurs... hop, je regarde mon petit papier.
Il y a une petite note.
Il était là.
Ah,
oui,
il est là. C'est le pas quelqu'un qui a piqué.
Docteur Destruction. Oh, bon. Et c'est formidable. En fait, ce sont des Français au départ.
Alors,
il y a des petites fiches. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des ABD, parce que c'est présenté sous forme de comics qui paraissent en fait tous les 2-3 mois. Mm-hmm. Et il y a, en même temps, il y a des petites fiches sur les personnages dans les albums, c'est assez marrant. Donc, Docteur Destruction et les Formidables sont fascinés par Bernard Ménez, les frères Jacques, Arsène Lupin et la Savate. La Savate, c'est le sport, hein, je vous le dis tout de suite.
Oui, bien sûr.
C'est pas les fétichistes. Hein.
C'est pas l'espadrille basque.
Docteur Destruction et ses Formidables possèdent une splendide Citroën CX présidentielle qu'ils affirment avoir appartenu à Charles de Gaulle. Au volant de ce fleuron de l'industrie française, et selon leurs humeurs, ils sèment la terreur ou sauvent la veuve et l'orphelin. Et j'ai bien dit, Lyon.
Elle a bien dit.
Car s'il y a effectivement des doutes sur la nationalité réelle,
ouais.
On l'a dit, hein, ils n'ont aucun problème à avaler le café américain. Il y en a sur la manière. Il n'y en a sur pas. Merde, j'y arrivais. Il n'y en a pas.
Alors,
sur leur manière d'agir.
Tu devrais l'apprendre par cœur parce que quand tu ne lis pas. Ta diction est formidable. Alors
oui,
que
mais je ne suis pas toi à apprendre par cœur.
Ah, je sais que c'est pas facile de tenir un bouquin, de regarder. Bon, pourtant, on a un bel éclairage.
Je pense
maintenant.
Que tu devrais nous le mimer.
C'est peut-être plus facile avec toi. Enfin, bref, ils changent de camp régulièrement. C'est pour ça qu'ils sont français. Ils n'hésitent pas à frapper dans le dos. La canne du docteur Destruction cache une lame tranchante qu'il dit avoir plantée dans le cœur du cinquième formidable, qui n'existe plus forcément. Celui qui arrive rit en écoutant les villes de solitude de Michel Sardou. Il s'en sert également pour tartiner les rillettes qu'il fait venir chaque semaine du Mans. Il est également très susceptible lorsqu'on critique « On a retrouvé la 7ème compagnie », le film dans lequel...
Moi aussi, je suis susceptible quand on la
Henri
critique.
Henri Guibet, dit-il, donne toute la mesure de son talent.
Absolument.
Voilà. Donc,
peut-être
un univers complètement délirant, mais fort sympathique, où on retrouve effectivement des personnages et la culture mexicaine aussi. Et c'est vachement bien, et c'est chez les Humanos, donc vous retrouvez à peu près...
Et c'est plein de catch
mexicain.
C'est très étonnant. D'où vient ce retour du catcheur mexicain?
Toi aussi,
c'est des gens visiblement qui ont fait des voyages aux États-Unis et qui s'imprègnent aussi de cultures.
Voire même des voyages. Non, dites donc, il a terminé sa chronique, il avait une chute.
Et non, j'ai pas terminé.
Ah non, mais...
Vous avez des sites, si vous voulez aller voir, vous avez des sites qui sont assez marrants, que ce soit pour Muta Fucas ou Lucha Libre. Donc allez-y, il n'y a pas de problème. Et là, je vais terminer effectivement en disant Arriba, muchacho speedy, François. Envoie le déguelo que nous a mis sur ta platine.
un signe de toi là. Comme une croix, un signe de toi là. Caresse-moi un peu plus bas, juste faire l'amour là. Comme une croix, un signe de toi là. Comme une croix, un signe de toi là.
Assieds-toi donc toujours. De là à ce que le micro soit ouvert, c'est une autre histoire. Étais-je en train de dire à une amie, nous écoutions un des groupes choisis par nos amis du cabaret électrique.
Nadj, qui est une jeune artiste grenobloise qui va faire la première partie de Gomme. Donc c'est du rock français, c'est pas partie des jeunes découvertes. Il y a deux, trois chanteuses rock qui arrivent, chant en français évidemment. Mademoiselle K, Nadj.
Évidemment. Donc... Attention, tu sais que ça va.
Oui, je sais bien, il y a le risque qui est pas loin, je vais me faire assassiner.
Voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche.
Donc voilà, on souhaitait la mettre en avant sur cette première partie.
Merci Philippe. J'allais dire qu'après cette chronique brillantissime, échevelée, et avec plein de noms en langues étrangères difficiles à prononcer dans un brouhaha terrible que nous a fait Pascal, nous sommes toujours donc avec Paca l'Empereur Maya, représentant du cabaret électrique, et Philippe, qui n'a pas encore chez nous de petit surnom, mais on va forcément t'en trouver un.
Je vous laisse le déterminer.
Ah oui,
Philippe, l'homme qui aime les chevaux.
Ah oui, c'est vrai, Philippos.
C'est vrai.
Tiens, Anne-Lizy, donc, puisque c'est
Anne, oh, l'homme qui aime les chevaux.
Et voilà, allez, rentrez-moi tous au paddock. Bon, alors... Nous n'avons pas tout à fait terminé avec vous, les amis. Et non.
Bon, alors, prends un coup.
Donc, reprends un petit coup de rouge, en effet, Paca.
Bah oui, pas mauvaise, Bordeaux, effectivement.
Mais c'est un peu l'heure où les intervieweurs lassés demandent aux invités « Et qu'est-ce que vous ne savez pas encore dit ? Quelles questions nous avons-vous... » Ah, oh, là, tu vois, lassés, hein. « Ne nous... »« Ne vous... »« Nous avons-vous pas posé à laquelle vous aimeriez répondre ?» C'était ça, non ?
Ouais. Pour ainsi dire.
Pour ainsi dire.
Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit ?
Ah. Bon, sinon, petit temps de réflexion pour vous. Mais j'espère que c'est pas une chose grave parce qu'on voulait vous demander pourquoi vous aviez fait un hommage à Léo Eude dans votre programme. Et j'ai bien peur que ça soit effectivement quelque chose de pas très gay. Mais j'en sais rien en même temps.
Léo, c'est un,
c'est un petit gars qui avait à peu près 18 ans, si je ne m'abuse, qui bossait à l'Agora dans les locaux de Rapet, qui est décédé malheureusement cet été. Visiblement, il était asthmatique suite à une crise de pollution, ce qui nous ramène quand même à nos problématiques havraises. Et voilà, donc l'hommage, c'est simplement pour ça. Simplement.
Enfin.
Voilà.
D'accord.
Je pense qu'il y a plein de gens, il y a plein de groupes qui sont venus d'ailleurs poser des questions à son sujet parce qu'il connaissait bien. Il a passé un an, il était. Voilà, il faisait un stage là-bas. Voilà.
D'accord.
Donc Léo, on te salue, mon gars, où que tu sois.
Paix à son âme.
Ça nous permet de saluer aussi l'âme, parce que bon, enfin bon, ça nous permet de saluer aussi les industries havraises qui sont partenaires d'un certain nombre de manifestations. Voilà, on se demande pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Les gens ils nous polluent, ils nous tuent la gueule à longueur de temps, mais ils sont quand même partenaires d'action culturelle. C'est bien.
Pas chez nous encore.
Pas nous.
Pas chez vous. Ça viendra pas.
Non.
Bon, on va pas vous demander des engagements formels dont vous seriez obligé de vous dédire dans quelques mois. Enfin bon, vous avez eu ce petit temps de latence pour réfléchir à tiens, ils nous ont pas tout posé de toi. Il y avait des réponses qu'on voulait donner à des questions qui n'ont pas, non?
Bah le sujet est vaste, on n'a pas encore non plus toutes les réponses à toutes les questions, donc bon, je sais pas, on a peut-être pas parlé de l'aide à la création, qui va être un objectif qui va venir un peu plus tardivement dans la mise en place du projet. C'est-à-dire pouvoir avoir des artistes en résidence. Et on parlait tout à l'heure de l'action culturelle. Ouais, de pouvoir aussi travailler avec eux sur les publics. Enfin, leur offrir un vrai temps de travail, quoi. Donc ça va se caler au fil du temps. Je pense que ce ne sera pas avant septembre parce qu'il faut le temps de se caler. Mais cette envie d'avoir un rapport différent avec l'artiste, là, on a programmé des artistes, on les voit à très peu de temps, finalement ils arrivent à 14h, ils repartent à 2-3 heures du matin. L'idée c'est qu'il y a un vrai échange et puis que ce lieu-là soit aussi un outil de travail pour les musiciens. Alors quand je dis des résidences, ça peut être là aussi pour des artistes locaux, des artistes nationaux, voire même internationaux.
Et vous allez faire de la production ?
Ton micro n'est pas ouvert. Vous allez faire de la production ?
Le micro n'est pas ouvert, maintenant il est ouvert.
Mm-hmm.
Merci François. Et vous allez faire de la production ?
C'est pas dans nos intentions premières. Là, c'est plutôt de donner un coup de pouce à des artistes pour les aider à travailler leur spectacle, mais pas forcément produire leur spectacle.
Résidence, et donc travailler sur la durée, ça veut dire, par exemple, passer combien de temps chez vous ? Et dans quelle mesure vous pouvez, en plus des lieux mêmes, les héberger, les voir comment tous ces gens-là vont manger ?
L'idée, ce n'est pas forcément de formater le dispositif. Ça dépend aussi de la demande de l'artiste. Il y en a qui vont demander 5 jours de répétition sur scène, d'autres qui vont demander 3 semaines. Voilà. Donc ça va être un dialogue, on y revient, avec l'artiste et voir ce dont il a besoin, faire une analyse avec lui, des besoins, puis voir ce que nous on peut lui offrir, et on prétend pas non plus répondre à toutes ces demandes, donc
lui non, mais ça veut dire quand même, excuse-moi, mais que du coup il faut quand même des moyens pour effectivement que les gens qui viendraient d'ailleurs soient correctement reçus au niveau
c'est bien pour ça qu'on parle, on fait le distinguo entre l'accompagnement artistique qui va être plus ponctuel et qui va être sur des temps plutôt réduits, et l'aide à la création sur des résidences où là on parle vraiment de résidences, c'est-à-dire des artistes qui sont même idéalement payés pour faire ce temps de travail, accueillis, nourris, logés, voilà, enfin un vrai temps comme on peut trouver plus classiquement dans le théâtre ou dans la danse, quoi.
C'est des choses, puisque vous travaillez au sein de la Fête du Rock, ou en tout cas vous allez le faire parce que c'est un nouveau projet, qui se font dans d'autres endroits. Vous avez échangé des expériences avec d'autres salles par rapport à ça?
Je pense qu'on va s'enrichir aussi des expériences des autres, mais c'est aussi à nous d'inventer avec l'outil qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des lieux qui ont d'autres capacités et qui vont pouvoir offrir peut-être plus que nous, ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'ailleurs. C'est pas forcément ceux qui ont le plus de moyens qui offrent le plus.
Mais, comme c'est bien dit.
Mais c'est de le faire à notre échelle et avec nos moyens, mais de le faire le plus honnêtement possible. C'est-à-dire en étant clair aussi avec les artistes, en disant ça on peut faire, ça on peut pas faire. Ça on peut vous mettre en relation avec des gens qui savent faire, enfin voilà, c'est d'être honnête dans la démarche, comme on essaiera de le faire sur l'ensemble de l'activité du lieu, quoi.
Et donc avec le fait que dans cette baie Anse du Havre, ça peut être attractif selon vous pour justement des gens qui viennent de, d'autres endroits de France?
Ouais, je pense
c'est
que
un de vos buts.
Offrir un lieu, c'est déjà beaucoup. Enfin, l'expérience que j'ai pu avoir à l'Arcade sur des groupes qui pourtant avaient une dimension nationale et une certaine lisibilité. Quand on leur disait on vous offre, enfin on vous met à disposition la salle avec des moyens techniques, un technicien, l'hébergement et la restauration, déjà c'était déjà cadeau pour eux. Si en plus on peut y mettre le salaire, alors là c'est bonus. Et après le lieu a finalement peu d'importance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de lieux que ça qui offrent cette possibilité-là. Et le fait déjà de pouvoir l'offrir, après, je pense qu'ils s'en fichent de savoir si c'est au Havre, si c'est.
Non, non, mais c'est vrai, si c'est, et c'est forcément une bonne idée. Mais le Havre, vous n'êtes pas sans le savoir, une image assez désastreuse auprès d'un certain nombre de groupes, et pas seulement au sud de la Loire, où les gens se disent c'est gris, c'est moche, c'est pollué, on en parlait.
Moi, j'ai une expérience où j'ai réussi à faire venir des groupes en résidence à Gravenchon. Donc, je me dis que ça veut.
C'est pas. Ils sont venus à Gravenchon.
C'est pas impossible de les faire venir au Havre.
Ça change.
Et puis, puisque tu parlais de groupes croisés comme ça, parce qu'ils vont venir juste un soir, et puis voilà. Pour les groupes, c'est très frustrant aussi, d'ailleurs. Donc, du coup, effectivement, c'est un échange, parce que on sait bien ce que c'est d'arriver dans une ville tard, et puis balance en retard, et puis bon, voilà, concert. Ce qui se passe après, hein, et puis voilà, il est tard, on voit rien de la ville et on s'en va. Ça va aussi avec la question de la programmation, j'y reviens. Vous avez fait des choix, évidemment, de passion, de choses qui vous plaisaient, etc. Vous avez dû aussi, sans rentrer dans les possibilités des tourneurs, mais vous baser forcément sur ce qui tourne en ce moment, ce qui se passe. Vous avez réussi comment à faire coïncider ces deux choses-là? Vos envies par rapport à vos envies à vous-même, ce que vous pensiez qui plairait au public, et puis ce qui tourne en ce moment.
C'est là où le rôle du programmateur est très important, c'est-à-dire qu'il fait ce travail de veille. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de se borner à recevoir les mails des tourneurs et à choisir sur un catalogue. C'est aussi d'aller au-devant d'artistes en découverte, d'aller voir des concerts, d'aller d'écouter les CD qu'on reçoit, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et à l'issue de ça, c'est de trouver un équilibre entre effectivement des artistes qui nous sont proposés par les tourneurs et qui sont des artistes plutôt en vue, enfin on a cité quelques-uns qu'on a dans la programmation, et puis d'autres qui sont pas forcément signés, qui sont pas forcément sur chez des tourneurs et qui méritent tout notre intérêt et qui méritent tout autant d'être programmés sur la salle. Donc ça, voilà, mais ça demande un vrai, un vrai temps, un vrai travail.
Ouais, ça sera sur la durée aussi que vous allez pouvoir anticiper et demander. Et après, les tournées s'organiseront en fonction du cabaret électrique à Le Havre. Les gens diront, ouais, attends, une fois qu'on a calé cette date-là, voilà, le reste du monde est à nous. Alors une question perfide ou naïve, je ne sais pas. Ils ont parlé de jeunes groupes et de jeunes publics. Le cabaret électrique, ce n'est pas pour les vieux.
Si.
C'est aussi pour les
vieux. Il peut y avoir des jeunes groupes qui sont composés de vieux.
C'est vrai.
Déterminons le mot vieux déjà.
T'as tourné la tête vers la droite en disant ça.
Non, c'est pas une question d'âge. C'est des jeunes groupes.
Enfin,
c'est dans. Oui, c'est vrai en même temps.
On te rappelle ce qu'on a dit autre fois.
Non, pas plus de 50 ans, c'est ça?
Ouais.
Non, mais excusez-moi d'intervenir, maintenant que le micro est ouvert. Cabaret électrique.
Ah non.
Attends, mais dans cabaret électrique, il y a le mot cabaret et électrique.
Voilà, et eh bien tu peux refermer le micro, Dan. Évidemment,
la question
a été posée il y a à peu près une heure et la réponse a été donnée. Je suis désolée.
Non, mais juste pour dire que, deux secondes, le cabaret
électrique.
Bon, ok, mais cabaret, qu'est-ce que
c'est? La cousine de Fabrice Lucchini, en fait, qui est de retour parmi nous.
Mais c'est vrai, en plus, je suis un petit peu la cousine de Fabrice Lucchini. Mais il fallait pas le dire, Juliette.
Tu vas nous interpréter du La Fontaine et du Céline avec la diction.
Non, mais simplement pour dire qu'il y a une dimension théâtrale qui est là dans le nom du truc. C'est-à-dire que, ok, pour faire une volonté politique de musique à fond, les baluchons, on réouvre les portes.
Je te réponds.
Ouais.
Cabaret.
Ouais.
dans un cabaret.
Cabaret, en plus, c'est miam miam. Hein.
Non, mais il y a ah beaucoup... non, c'est pas que miam miam.
Mademoiselle, allez-y. Il y a question, il y a réponse.
Il n'y a pas que miam miam dans cabaret. D'ailleurs, nous, ce qu'on met dans cabaret, c'est pas miam miam.
Et bien, justement,
c'est plutôt glou glou.
Ah, glou glou.
C'est-à-dire que.
Et miam miam, vous en faites quoi?
J'essaye de te répondre.
D'accord.
J'essaye de te
répondre. Je t'écoute, Kéké.
Cabaret, c'est un endroit, a priori, quoi qu'on y mette, de toute façon, c'est des choses un petit peu. Qui échappe un petit peu, tu vois, ce qui se passe habituellement dans la rue ou chez les gens. C'est-à-dire un cabaret, c'est un endroit particulier où il y a toujours eu des spectacles, des choses, tu vois, qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
Très bien.
Si je dis ça, tu vois, voilà.
Pourquoi pas.
Et on peut imaginer, chacun y met ce qu'il veut d'ailleurs, dans ce cas, voilà.
Mais c'est l'auberge espagnole.
En fait, on c'est la deuxième fois qu'on répond parce qu'on nous a déjà posé la question. Mais comme c'est toi, on répond la deuxième fois.
Vous êtes vachement sympa.
Tout à l'heure, c'était mon pote, maintenant, donc c'est à moi de m'y mettre. Donc j'ai répondu sur cabaret. Voilà, il avait dit à peu près ça, sauf qu'il avait rajouté sur cabaret qu'il y a une connotation française.
Ouais.
Même les Américains utilisaient ce mot-là, parce que cabaret, c'était à l'époque branché de dire cabaret en le disant en français en plus.
En 1939 ?
I am going to the cabaret.
Ouais, ouais. I go to the cabaret, voilà. Dès 1920, à mon avis, ça se disait.
D'accord.
On a adjoint à ce mot-là électrique.
Ouais.
Subtilité.
Bah oui.
Car électrique sous-entend les amplis, les guitares électriques.
Et le courant passe.
Et le courant passe, exactement.
Oh yes.
Voilà.
Ouais, non mais ça j'ai bien compris. Mais au niveau miam miam, alors est-ce qu'il y aura un service?
Ah non mais miam miam, c'est toi qu'on a parlé, c'est pas nous.
Moi j'ai une copine, elle habite à Toulouse. Elle vient du Royal Deluxe. Elle se casse le cul à faire un cabaret. Alors je sais pas le nom qu'il a son cabaret à elle, mais c'est pas un lieu, c'est un spectacle. Et dans la formule, il y a une proposition que les gens ils viennent. Ils regardent, ils écoutent et ils bouffent.
Bon.
Nous,
non.
Non.
En fait, il y a bien.
Tu es en train de bouffer le temps de la chronique de Cinémabiste.
Je réponds.
Alors, jamais.
Miam miam pour les groupes. Il y aura un cuisinier sur place, tout ça.
Miam miam pour les groupes.
Miam miam pour les groupes. Pas miam miam public.
Alors faites tous de la musique.
Voilà, très bien. Et moi, j'en profite parce que tu me disais des questions qu'on n'a pas posées, mais peu importe. Il faut savoir qu'on recherche quelqu'un, là, dans l'immédiat. En dehors du programmateur, mais ça on en a déjà parlé, évidemment. Pour les locaux de répète, il faut 3 personnes. On n'en a que 2. Il nous manque quelqu'un à mi-temps pour travailler sur les locaux de répète, c'est-à-dire accueillir les groupes, c'est-à-dire ouvrir les portes.
Ça tombe bien, moi je suis au chômage, j'ai 2 gosses, je cherche un boulot à mi-temps.
Je n'ai pas fini mon annonce. Il faut que ça soit un musicien ou une musicienne.
Bon. Est-ce qu'il peut avoir une casquette jaune ?
Éventuellement la casquette jaune. Musicien, ouais. Musicien, musicienne expérimentée. Enfin, en tout cas, non, c'est sérieux ce que je dis. C'est vrai, on cherche vraiment quelqu'un. Il y a un mi-temps à prendre. Pour un musicien, voilà, ça peut être un complément de revenu. Je ne vais pas me lancer dans les détails. S'il y a des musiciens qui sont intéressés pour venir travailler dans ce cabaret électrique, qui nous contactent et puis on se rencontre et puis on en cause.
Bah, c'est pas mal.
J'en profite pour placer aussi. Cherche une voiture aussi. Non, c'est pas.
C'est bien. Et la voiture qui est mal garée devant le bar de la Palpaille.
En bas de chez moi, un diesel 372. Un camion diesel 600 euros en bas de chez moi.
Toutes ces informations seront bien sûr sur le site du cabaret électrique qui est peut-être ouvert depuis peu. Et sur le site de Radio Apple Pie, évidemment, on écoute le morceau suivant choisi par nos invités et on continue à parler avec eux.
Très bien, très bien. Tu vois qui c'est qui a écrit ça?
là 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 là. Je vous en prie. Bon, pas de gros mots à l'antenne. Quelqu'un a dit Laurent Ruquier. Ah non, alors merde, couille bite, d'accord, mais Laurent Ruquier, non.
C'est Eric Zemmour.
Oh, mais Eric Zemmour, c'est vrai que c'est encore plus laid. Eh ben, j'en profite, t'embrasse, Bénichou. C'est un hommage à Fred et Omar, vous l'aurez reconnu, très mal imité, mais du service après-vente des émissions. Service après-vente des émissions. Voilà, voilà.
Tu sais que finalement, la centième, ça se tenait, en fait.
Oui. Mais tout à fait. Bien. Avant de te passer la parole, si je peux dire définitivement, et après le morceau de James Bond que tu as choisi, mon cher Ludo, tu l'auras cherché pour ta chronique de Cinéma Bis. Nous sommes donc toujours avec Paquel, Empereur Maya et Philippe, The Philippe.
L'homme des chevaux. L'homme des chevaux.
L'homme des chevaux, Philippos, j'aime le cheval. Doris. Doliguane, association. Qui est voilà, en délégation de service public, le cabaret électrique, notre nouveau café musique qu'on a à Le Havre, on en est vachement fiers, et le monde va le savoir dès que cette émission sera en ligne, qui n'ont pas dit leur dernier mot, mais
ça ne serait tardé.
On s'en approche.
Ça va venir.
Non, on a parlé de diverses associations qui forcément vous ont contacté, ou que vous-même avez contacté pour travailler avec vous, parce que vous êtes vachement actif, réactif, pour travailler avec tout ce qui se fait de mieux et de passionné dans cette bonne ville de Le Havre. Je voulais vous poser une question, et j'ose espérer qu'elle n'est pas trop explosive, par rapport au Polar à la plage, qui festival émérite que nous adorons et nous suivons depuis pas mal de temps. Voilà, le festival de Polar du Havre que la ville mérite, mais que la municipalité peut-être ne mérite pas et en tout cas ne comprend pas très bien, et qui n'a pas pu se passer cette année dans le lieu que vous gérez maintenant, enfin je veux dire l'été dernier, puisque c'était justement la transition entre deux équipes. Est-ce que depuis vous vous êtes revus avec l'association Les Encres Noires, et est-ce que vous avez des projets?
Oui, on a rencontré, j'ai rencontré deux fois Dominique Delahaye. Mm-hmm. On est en pourparlers entre guillemets, donc on s'est engagé sur le fait qu'on avait envie de soutenir ce festival-là, qui avait une histoire déjà avec le lieu précédemment. Mmh. Et c'est pas pour autant qu'on faisait un boycott, bien au contraire. Après, faut qu'on voit sur quoi on part et comment on organise ce soir, enfin un soir ou deux soirs autour de ce festival. Mais oui, non, ça fait partie des gens qui sont venus nous voir très, très rapidement et avec lesquels, je pense, on va travailler aussi très, très rapidement.
Non, parce que c'est vrai que, bon... Une fois de plus, beaucoup de choses ont déjà été dites dans des émissions précédentes de Radio Apple Pie, mais pour nous, c'est un festival important. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens, à la fois au niveau littérature, la rencontre des auteurs avec le public ici. Bon, nous, évidemment, des rencontres extraordinaires qu'on a eues avec tous. Les reprises de textes écrits spécialement par les auteurs pour des groupes... généralement locaux, mais maintenant il y a aussi des artistes nationaux qui interviennent là-dedans. Donc c'est une compilation Polaroid Rock qui sort depuis 3 ans maintenant. Et donc effectivement un concert dont le premier avait été particulièrement émouvant, puisque évidemment c'était un petit peu toute la scène rock qui se mélangeait sur la scène, donc à l'époque de l'Agora, interprété notamment en finale un texte de Didier Deninx. Donc voilà, enfin, je supposais, en tout cas on espérait, que vous alliez renouveler ce partenariat. Bon, maintenant c'est ouvert, quoi, on va dire.
Oui, c'est ouvert, et enfin il y a très forte chance qu'on travaille ensemble. À partir du moment où il y a des volontés de part et d'autre, il n'y a aucune raison que ça se fasse. Après, on n'a pas forcément envie de refaire exactement la même chose. Mm-hmm. Et je pense que c'est bien de profiter du changement pour peut-être renouveler aussi les choses qui se faisaient avec les encres noires. Donc à nous de trouver la bonne formule et de voir ce qui convient aux deux parties, quoi.
Mais forcément, parce que c'est vrai qu'on le disait en début d'émission, il y a eu un temps, un an et demi, des épacas, déjà de réflexion, de volonté de commencer, et puis voilà, il s'est passé plein de choses dans vos têtes et dans vos projets. Donc je suppose qu'effectivement, par rapport à eux comme à d'autres, vous avez eu le temps de penser, de regarder tout ça, et d'aller peut-être au-delà de ce que les gens allaient vous demander. Enfin, vous avez, je suppose, forcément, dans votre grande équipe, réfléchi à tout ce que vous pourriez proposer de différent un petit peu à tout le monde.
Pas forcément. Non, l'idée, c'est pas forcément d'arriver avec une idée précise de ce qu'on a envie de faire. C'est aussi d'écouter les autres. Enfin, on n'a pas forcément envie d'imposer tout de suite nos dispositifs, notre méthode. On a des envies de part et d'autre. Essayons de trouver un terrain commun. On fait ce travail-là avec... avec les encres noires, on le fera certainement aussi avec les Bretons de Bretagne Accueil. Il y a d'autres associations qui sont en demande, qui travaillaient avec, déjà avec le lieu et qui reviennent vers nous, qui sont plutôt avec un bon a priori sur ce qu'on est capable de proposer. Après, à nous de construire ensemble et de faire quelque chose qui plaise à tout le monde et qui corresponde aux envies de chacun, quoi.
Oui. Bien joué. Pendant ce temps-là, j'essayais de communiquer en langage de sourd-muet avec une copine, Doris, pour la nommer. Et en fait, non, j'ai pas tout compris, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, on va écouter un morceau de Jazz Brown qui nous a quitté un petit peu trop tôt. Quoique.
Encore,
on va être obligé de trinquer une fois de plus, comme dit Paca. Et après ce morceau de James Brown, la parole à Ludo pour sa chronique de Cinéma Bis. Pendant ce temps-là, on va préparer la suite. I said, love me, baby, love me like you never, never, never did before. Kiss me, squeeze me, huh? Make me want some more, cause you know that I need you. Ah! You know that I need you. You know that I need you. You know that I said I need you. Hey, I need you. Now, Ben, can you make it steady? Can you make it better, Ben? Can you make it funky? Can you? Yeah! Monte sur la scène comme une machine de sexe.
Ça va de soi.
Make It Good to Yourself, James Brown, évidemment, extrait de la BO de Black Caesar. Donc James Brown nous a quittés il y a quelques jours, bon, tout le monde est au courant, on va pas faire une biographie ni une nécrologie quand même, hein. On vous renvoie à vos lectures favorites. Juste dire qu'il était déontologiquement impossible pour une chronique de Cinéma Bis de ne pas rendre hommage à James Brown, alors qui a pourtant une contribution assez congrue, du moins de manière directe en matière de cinéma, puisque quoique le site de référence IMDB, l'Internet Movie Database, recense pas moins de 114 œuvres de fiction, longs métrages, séries télé, jeux vidéo, ayant puisé dans le catalogue de James Brown, bon évidemment la plupart du temps pour des titres connus,
dans son catalogue,
voilà, James Brown n'aura connu une carrière impliquée, si l'on peut dire, que très furtive au cinéma. Bon, on l'a pu le voir dans quelques films, on se rappelle les Blues Brothers, Blues Brothers 2000, un épisode de Miami Vice, etc. Et il n'a composé que deux bandes originales de films, mais en l'occurrence pour la Blaxploitation. Donc évidemment, hommage forcé, contraint et chaleureux dans cette chronique de Cinéma Bis, ce fut en l'occurrence en 73, donc la BO de Black Caesar de Larry Cohen, sortie en février 73, qui fut sa première BO dans les notes sur la pochette. Fred Wesley, qui a activement travaillé sur le disque, explique que James Brown dans un premier temps n'était guère tenté par l'expérience de la musique de film, ou tout du moins on avait une vision très réductrice, à savoir place tel morceau sur telle scène, ça fera l'affaire, avant de passer à quelque chose de plus expérimental. James Brown signa par ailleurs cette même année en 73 la BO du deuxième épisode de Slaughter's Big Rip-Off de Gordon Douglas. Voilà. Alors, sans transition, mais alors ce qui s'appelle sans transition,
et
de manière totalement éhontée, une petite friandise pour débuter l'année. Voilà, tu rendais tout à l'heure hommage à Pascal. Voilà. Je vais également rendre hommage à Pascal qui...
Toi aussi, t'as fait des cadeaux.
Non, c'est pas un cadeau, si l'on peut dire.
C'est qu'il l'a voulu, quand même. Et
là, il y a quelques semaines, il me prêtait Le cerveau qui ne voulait pas mourir, The Brain That Wouldn't Die, de Joseph Green, 1962, édité chez Back Film, auquel on va rendre hommage, et dans lequel on trouve cette petite perle. Je ne parlerai pas du film, juste cette petite perle de traduction. Parce qu'il est bien connu que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Appliqué à la lettre dans ce « The alcoholic has his bottle, the dope addict his needle ». Traduit dans les sous-titres, allègrement, par « Les alcooliques ont leurs bouteilles, les botanistes leurs asticots ».
Ah oui, d'accord, autant pour moi. C'est beau.
C'est absolument splendide.
C'est, oui.
Bon. Tout ça, évidemment, pas pour se moquer, ça va de soi.
Bien entendu, bon. Ça va de verre à soi.
Excellent. Pour à nouveau saluer le travail éditorial de Backfilm, oui, je sais, c'est partial, il y a plein d'éditeurs formidables qui attendent d'être cités. Bientôt, on va parler de néo-publishing, parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il sortait Béatrice Senchi de Lucio Fulci, et ça, je peux te dire qu'on va en reparler.
C'est de la même famille ? Non.
Non. Ça va venir, ça va venir. Alors, Backfilm, j'en avais déjà parlé, c'est un éditeur qui sort une pelletée monstrueuse de films. Alors, il a sorti des films de prison de femmes coproduits entre l'Amérique et les Philippines. Il a une collection sur les classiques du cinéma soviétique. Il sort énormément de séries B, voire franchement Z, comme Ce cerveau qui ne voulait pas mourir. J'en avais parlé à l'époque où j'évoquais Nabunga et le singe tueur avec Boris Karloff. Et voilà, les chroniques
Désolée,
se perdent dans l'oubli.
Ah oui, je n'ai pas oublié La Zampira et la Habana, je n'ai pas oublié L'autre là contre les vampires, et tant d'autres, mais là non.
Tant pis, on fait bref, parce que cette chronique est totalement chaotique et disjointe. Donc si en plus on digresse.
Disjoint ?
Tu suis pour ? Disjoint ?
Bon. On a le Piocher ! Piocher !
Ça y est, l'écolisation.
Je suis désolé. Piocher parmi les innombrables sorties de Backfilm, qui il y a peu sortait encore La dernière femme au monde, de Roger Corman.
Ah, c'est un titre.
On en reparlera aussi. À titre d'exemple, 20 000 lieues sous les mers. Alors, pas le Walt Disney, hein, il n'y a pas le Walt Disney, évidemment. Le Stuart Patton. Alors, Stuart Patton,
qui n'était pas un général,
certes non, enfin, ce fut un Écossais, un des pionniers du muet, évidemment, né en 1883.
Oui, voilà, forcément, tu m'aurais dit que c'était un pionnier du cinéma en 360 degrés, je ne t'aurais pas cru.
Ils sont capables de tout. Voilà, né et disparu en 1944. Alors, c'est quand même quelqu'un qui
c'est
entre
nous.
Il est vrai, mais.
Que nous avons eu un pic à cette époque-là.
On va s'égarer.
Les gars jouaient leur rôle, en effet. Bon, bref.
Donc, Stuart Patton, donc, à la réalisateur, parfois scénariste, voire acteur, et même monteur et producteur, a quand même 67 films à titre de réalisateur à son actif entre 1915 et 1938. Bon. Comment ?
Tous muets.
Pas tous muets. Hein. Il a tâté de plein de genres, du western. Évidemment, j'en ai vu aucun, si ce n'est ce 20 milieux sous les mers. Citons juste, pour, il a même fait des adaptations d'Edgar Wallace, dont notamment Wanted at Headquarters en 1920. Et citons juste pour la bonne bouche, titre fort intrigant en 22, L'homme qui épousa sa propre femme.
Oh.
Demande à voir.
Et qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Je suis amoureux de ma femme. Non.
Donc, ce 20 milieux sous les mers.
C'est pas si étonnant que ça, parce que là, qui s'est divorcé, qui se remarie après. Donc,
Sûrement une comédie de remariage dans la grande tradition du cinéma américain. Voilà. Donc, ce 20 milieux sous les mers de 1916, qui au passage n'était pas le premier, puisque qui a tourné la première adaptation connue, répertoriée de 20 milieux sous les mers ? Alors, c'est une question pour le trivial poursuite. Hein.
Je veux dire,
qui
pas,
a
mais
tourné
y avait
la première adaptation ?
Ah non, non, c'était l'autre, là. Comment il s'appelle Laurent, là.
Ouais, attends, t'en as 36, toi ?
Bon, ouais, vas-y.
Georges Méliès.
Ah, c'est pas vrai !
Georges Méliès...
Il y avait beaucoup, non, à l'époque, il fallait des trucs un peu...
En 1907. Alors, ce 20 milieux sous les mers, il est quand même très particulier. Il n'est pas extraordinaire, comme bien souvent un certain nombre de films... Pas extraordinaire du point de vue artistique, s'entend. Il est quand même relativement curieux. Hein. Donc,
mais que se passe-t-il sous
donc,
les mers ?
Il date de 1916, et pour un des, entre guillemets, premiers films de l'histoire du cinéma, enfin tout du moins...
dans sa forme diffusée au public.
Voilà, non, voilà. Etc. C'est un long métrage hein, qui accuse bien quand même ses 1h45.
Ah bah.
Voilà. C'est très intéressant parce que dès le début, on s'aperçoit que la fameuse tarte à la crème, de la fidélité de l'adaptation ciné par rapport à l'œuvre originale, eh bien, les artisans hollywoodiens n'en ont strictement rien eu à foutre.
Ils ont bien raison.
Parce que dans ce 20 milieux sous les mers, il faut quand même attendre 59 bonnes minutes avant de voir apparaître la pieuvre, qui compte évidemment parmi les plus statiques. Vu à l'écran, à égalité entre Tarkan contre les Vikings dont j'avais parlé et la fameuse pieuvre de...
Je citais, j'avais oublié son prénom, Tarkan contre les Vikings.
La pieuvre de Bride of the Monster d'Ed Wood, vu également dans Ed Wood, de Tim Burton.
Oui, Tim Burton, bon,
voilà.
Bon, bah...
Voilà, ça va de soi. Donc, évidemment, bon, alors... Ça commence de manière relativement classique par rapport au roman de Verne, hein, donc un dénommé professeur Aronnax s'en va en expédition à bord du Abraham Lincoln pour étudier le monstre des profondeurs. Il croise le capitaine Nemo, déjà relativement atypique, c'est Allen Holubar, acteur coutumier des films de Stuart Patton. Alors, ce capitaine Nemo est assez singulier puisque il a une peau couleur bronze quand même. Alors, il faut quand même... Il faut quand même oublier James Mason dans l'adaptation de Richard Fleischer tournée pour les studios Disney.
Bon,
il a la peau relativement couleur bronze. Et alors évidemment, si le combat sous-marin contre la pieuvre n'est pas le grand intérêt, c'est que l'œuvre diverge totalement.
Et diverge, c'est énorme.
Voilà, pour arriver sur l'île mystérieuse. Alors on a évidemment l'expédition qui part en ballon dirigeable, ici traduit par gonflable. Ils partaient à bord de leur gonflable. Ce qui est certes charmant.
Oui, c'est mignon.
On tombe sur la sauvageonne de rigueur à la robe bien coupée.
Oh, voire quasi inexistante.
Un enfant de la nature.
Mmh.
Un enfant de la nature. Et il s'avérera que, bon, je ne vais
je vais aller très très vite parce que bon.
Mais je t'en prie.
Non, non, parce que non, on va pas faire toute la chronique sur le film quand même.
Ah bon, d'accord. Mais ça n'empêche pas que, excusez-moi, pendant qu'il regarde ses notes, vous voyez pas un autre 20 milieux sous les mers avec un. C'est pas Walt Disney, enfin bon.
C'est un autre 20 milieux sous les mers, effectivement, qui à l'époque s'enorgueillissait de ses prises de vue sous-marine, effectivement, qui à l'époque était révolutionnaire. Mais là, on est plus dans le registre de l'enregistrement du cinéma que de la création de fiction. Alors évidemment, le capitaine Nemo en fait s'avère être un prince indien, et la jeune sauvageonne, enfant de la nature, n'est autre que sa fille.
Aïe, aïe, aïe.
Ah oui.
Attention.
Voilà. Ce qui fait que le film vire au bout de sa première heure au drame exotique. Et les retrouvailles sont fort touchantes parce que c'est à ma connaissance le seul 20 milieux sous les mers dans lequel on entend.
Fort touchant ou fort couchant ?
Fort touchante.
Ah oui.
Fort touchante. C'est le seul 20 milieux sous les mers dans lequel on entend le capitaine Nemo s'écrier : Allah seul oué, c'est mon enfant.
En effet.
Bon, je passe quelques détails, naïveté, etc.
Ça plairait à Tariq, non peut-être pas.
Voilà, j'en parle très brièvement.
Arcane, pas Tariq.
D'autant qu'en supplément figure un film d'animation de 7 minutes qui n'a absolument rien à voir, si ce n'est une relative proximité chronologique, qui est un film produit par Sovexport Film, donc qui a priori daterait, parce que alors là les sources sont pas tout à fait fiables, de 1924.
1924 ou quoi du coup? 1924.
Mes planète Naya Revoliutsia d'un dénommé Zenon M. Komissarenko.
D'origine probablement soviétique, de pré-glasnost.
Soviétique, film d'animation de propagande soviétique.
C'est très vivant, quoi.
Diffusé notamment lors du festival Les Utopiales en 2006 dans la sélection Invaders from Mars.
Oui.
Et le film, évidemment, est à la hauteur d'un tel intitulé, puisque ce Révolution interplanétaire. Fable politique, alors ça c'est Backfilm qui le précise, fable politique ou comment expédier des capitalistes inutiles dans l'espace.
Ouais, c'est une solution peut-être. C'était vraiment des précurseurs, hein. Bravo.
Voilà.
Ouais.
Propose, dès ses cartons de début, texto, événement banal en 1929, le dit du guerrier rouge du Comintern qui volait à la poursuite des bourgeois et les a tous chassés de Mars.
La planète rouge.
Et figure-toi que les bourgeois atterrirent sur Mars après avoir été chassés de la Terre.
Ah, c'est ça.
Voilà, oui. Puisque ce petit film d'animation qui combine à la fois celluloïde, et pas mal de collages raconte authentiquement comment des bourgeois. Alors évidemment, un film de propagande, tu les imagines. Le bourgeois a une tête de bulldog. Le bourgeois est repu, le bourgeois est opulent, la panse du bourgeois est débordante. De temps à autre, sur son écharpe, enfin de temps à autre, apparaît une croix gammée. Et quand ce n'est pas suffisant, la croix gammée sera tatouée sur le front, voire même sur un postérieur plus que proéminent.
Oui, pardon.
Super Guerrier Rouge va dégager toutes ses tangences. Après que ceux-ci eurent des yeux qui leur échappent des prunelles à la Tex Avery en lisant la Pravda. Parce que c'en est fait du capitalisme. Et non content de les expulser de la Terre, s'en vont les poursuivre à travers la galaxie, des fois que... Hein,
oh là là, que le capitalisme essaye d'essaimer un petit peu partout.
Contamine le système solaire.
Et
oui,
et voire au-delà.
Et oui, et ça prend très très vite, parce que telle planète comme Mercure, dont l'orbe de Mercure est représentée par un capitaliste bedonnant, proférant le slogan « L'argent, j'en vends, j'en prends ».
C'est beau ça. Ça veut dire que quand même dans l'esprit de ce réalisateur, toutes les planètes de la galaxie solaire, en tout cas du système solaire, sont peuplées.
Tu ne parles plus dans le micro, Juliette. Parle dans le micro.
Oh pardon.
Voilà. Sont potentiellement peuplées. Merci, et Pagan. Évidemment, le peuple masse corvéable et un petit peu naïf ne peut que tomber sous la coupe du capitaliste, et il importe évidemment que le soviet porte la bonne parole et foutre un bordel monstrueux dans la dernière minute où à coups d'éclairs zébrant l'écran. Il est question évidemment de chasser. Inutile de dire que nos héros triompheront.
mais j'espère bien.
In fine, dans le dernier.
Beauvais 14.
Dans le dernier plan, sous l'égide du portrait de Lénine, évidemment, qui préside à leurs actions.
Ah, mais c'est Star Wars!
Ah oui, non, c'est Star Wars, il y a un côté... On va dire que c'est à mi-chemin entre le kitsch Flèche Gordon et le secret des Sélénites de Jean Image. Tu vois un peu le bordel. Ouais.
Et assez loin du Chanel Ouville, dont on parlait précédemment, c'est dommage. Parce que...
C'est sorti pardon, chez Back Film, BACH, à ne pas confondre parce qu'il existe également Back Vidéo. C'est trouvable à deux fois son prix dans une certaine enseigne, donc on ne citera pas. Et c'est trouvable à son prix réel sur le site de l'éditeur internet Back Film ou dans les bons Disque King.
Je vais signaler à nos invités que peut-être que je ne parle pas personnellement dans le micro, mais que même avec micro coupé, perturbe énormément cette chronique et vraiment c'est mal quoi. Parce que papoter entre vous pendant que notre ami
on écoutait avec attention.
On discute justement, c'est pour ça.
On faisait un commentaire simultané de.
Ça alimente une certaine réflexion que nous avons avec mon cher Philippe.
Ah d'accord.
À savoir si on regardait ou pas le film et s'il fallait.
Que peut-être. Regardez. Ils diffuseront si ça se trouve dans le cadre du cabaret électrique. Donc je retire tout ce que j'ai dit.
Ah bah alors là, si vous voulez diffuser des films, vous me faites une transition parfaite et très sérieusement, allez-y. Transition parfaite parce que, juste deux points pour finir, c'est la rentrée, Cannibal Peluche a survécu à 2006, et Cannibal Peluche annonce très fièrement sa deuxième séance pour le jeudi 25 janvier. Pluie de flyers sur la table.
Cannibal Peluche étant cette merveilleuse association dont notre chroniqueur de Cinéma Bis est l'un des fondateurs.
Voilà, cofondateur, vice-président et secrétaire. Cannibal Peluche, donc, toujours au studio, jeudi 25 janvier, 20h30, Ichi the Killer de Takashi Miike, version intégrale, donc 2h04. Pour la première fois au Havre, Takashi Miike débarque avec son freak show nippon. Tous les personnages sont désaxés, tous les personnages sont soit sadiques, soit masochistes, ils sont perdus, ça va charcler, c'est parfois très drôle, parfois burlesque, parfois infâme, en tous les cas très souvent surprenant. Deuxième partie de soirée, 22h45, Ichi the Animation épisode 0, déclinaison en animation de l'univers d'Ichi the Killer, ou l'enfer quotidien d'un adolescent japonais, pris entre sa famille évidemment déstructurée, la persécution scolaire et le mal de vivre, et bien entendu hormonal, on ne peut que ressentir. Voilà, tout renseignement sur le blog de Cannibal Peluche. Et ultime transition, où peut-on trouver l'adresse du blog de Cannibal Peluche et plein d'infos sur ce qui se passe au cinéma au Havre? Et bien tout bonnement sur le blog de Radio Apple Pie, que... étonnamment, nous n'avons jamais le blog cinéma de Radio Apple Pie.
Un blog cinéma extraordinaire.
Nous n'avons jamais annoncé sur ces ondes.
Il fallait que ce fût fait.
Et Radio Apple Pie, qui a 6 mois d'avance sur son retard, n'est pas peu fier de vous annoncer qu'il y a un blog cinéma qui fonctionne, qui est mis à jour dans les mauvaises périodes à la va comme je te pousse, mais dans les bonnes périodes avec une vivacité qui pousse,
l'entendement.
Voilà, qui pousse au respect. Envoyez-nous vos infos si vous faites des projections, qui sait, au cabaret électrique, dans votre garage, au studio, à l'Éden, que sais-je, partout, documentaires, films de fiction, animation. Nous sommes preneurs.
Bravo, c'était la chute.
C'était la chute.
Bravo Ludo.
Made of stone. Tonight my world is grim, slip into some city lights I can see beckon to me. I'm not wasting my time, no, from far away they promise me fame. Follow them right on through. Oh, I'm on the run tonight and every day. I want everything, 'cause I want everything. Oh, I'm on the run, I'm not afraid to say I want.
want everything, 'cause I want everything.
Cependant que François, à la technique, offrait une bière à Doris et se servait lui-même, et c'est bien normal, il le mérite aussi, une bière sans alcool. Et ben dis donc, moi je fume des cigarettes sans nicotine.
Mais pas sans focol.
Mais nous ne racontons pas... Si, nous racontons des choses vides de sens, ça y est. Mais contrairement à nos invités de ce soir, Paca et Philippe, auquel nous donnons, si ce n'est carte blanche, en tout cas le mot de la fin.
Venez, nombreux, vous serez accueillis à bras ouverts.
Wow.
Lors des 3 soirs d'ouverture du cabaret électrique, et nous vous offrirons un vin chaud.
C'est pas vrai.
Ah, et ça pèse quand même, c'est un argument ça, non hein.
Malgré
non
le réchauffement de la planète, c'est qu'en ce moment, il faudrait peut-être mieux offrir des sangria ou
ouais,
des rosés.
C'est pas encore totalement réchauffé, il y a de bon reste, donc le vin chaud a encore du sens. Non, bah, en clair, on vous dit à tout bientôt. Voilà. À bientôt.
Est-ce qu'il faut amener son bol ?
Philippe, un dernier mot ?
C'est recommandé parce que nous, on en a très peu.
En espérant être bientôt sur votre antenne et puis surtout de qu'on vous permette de mettre en avant les artistes que nous-mêmes on met en avant sur la programmation. Je crois que c'est le but du travail qu'on va, j'espère, mener ensemble, de pouvoir mettre en avant les artistes parce que finalement. Nous voilà, on est juste des passeurs de.
Tout comme nous, c'est pas beau ça. Voilà.
Formidable.
Nous sommes au service des artistes. C'est pas vrai les artistes là ? Dites pas le contraire. Hein.
D'accord.
Ah, les artistes, on en dit du bien pendant 3 heures, puis au final. Hein...
François, il a dit non.
Il a dit, parce que c'est sa façon de souhaiter bonne année 2007, on s'en branle.
On s'en branle.
Bon, voilà. Merci à vous d'être venus. Franchement, bonne année. On souhaite que le projet se développe. Et ça va être bien. Et si ça n'allait pas, ben, on vous le dira.
Merci d'avance.
Voilà. Une petite dernière, peut-être, en chanson. Ouais. La prochaine est...
Le prochain morceau s'appelle...
C'est pour la prochaine émission.
Je voulais dire que la prochaine émission, ça sera avec Femmes Solidaires, Yacaré et le GAMS. Et que voilà, c'est dans 15 jours, donc le 24 janvier, sur Radio Apple Pie. Merci à tous, merci François, merci Dom, merci Coco, merci Leslie pour le tiramisu. Merci Sylvie pour les photos, merci tout le monde, merci surtout à nos invités. Et voilà, et à bientôt.